Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Bonjour à tous, bienvenue à Phoenix Podcast, saison 2, épisode 10. Aujourd'hui, moi et mon associé, on parle du jeûne intermittent. On vous démystifie la totalité de quoi savoir pour réussir à bien le faire et les erreurs à éviter. Bonne écoute! Avant de commencer, je tiens à spécifier, Samuel et moi et tous les membres de l'équipe, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des diététistes, des nutritionnistes, on n'est pas des psychologues et on n'est surtout pas des pharmaciens. On est des naturopathes, on vous partage notre expérience personnelle, client, on vous partage qu'est-ce qu'on a pu voir en clinique aussi. Donc, toujours prendre soin de vous informer à des vrais bons spécialistes dans le domaine de la santé avant de faire tout changement dans votre mode de vie. Salut à toi et bienvenue au Phoenix Podcast saison 2, épisode 10, le dernier épisode de la saison. Je suis avec mon associé Samuel comme à chaque podcast. Sam, ça va?
Oui, toi?
Good. Ouais, on s'est dit tout le temps. Aujourd'hui, on parle du jeûne intermittent. On va démystifier ça. En fait, on va pas rien que parler du jeûne intermittent. On va parler du concept du jeûne. Fait que ça va être un sujet vraiment, vraiment intéressant. J'ai beaucoup de personnes qui viennent nous voir ici en clinique puis qui ont déjà pratiqué ou qui pratiquent le jeûne. Il y a certaines religions qui vont le faire aussi. Fait qu'on démystifie tout ça. Vous allez voir, c'est super intéressant. Ça termine très, très bien la saison. Puis ça devrait être, on va dire, très chargé en matière, mais ça va nous apprendre beaucoup sur la physiologie humaine puis tu sais notre histoire et toute l'équipe. Fait que le jeûne intermittent en tant que tel, juste pour commencer avec ça, c'est une pratique ancestrale. Ça fait tellement longtemps que l'être humain le jeûne intermittent à travers, on va dire, sa façon de travailler dans la vie et toute l'équipe, sa façon de s'alimenter. Puis dans le fond, c'est très, très simple. On a évolué. Si on remonte à il y a très, 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 très longtemps, avant que l'électricité existe, avant vraiment qu'on soit confortable dans nos maisons et tout, l'être humain était un chasseur-cueilleur-pêcheur. Puis ça, ça a toujours été. Le chasseur-cueilleur-pêcheur, c'est quoi? C'est que dans le temps, t'avais ton village. Il y avait probablement le feu. T'avais ton village, puis là, un moment donné, tu vois...
Le feu. Qu'est-ce que ça veut
dire? Ben, il existait le feu.
OK. Excuse-moi, je te souviens pas.
Puis, dans le fond, t'avais ton village, puis là, tout ce que t'avais à faire, c'était de réussir à subvenir aux besoins de ton village. Fait qu'est-ce qui se passait? Tu voyais un bison, tu tuais le bison, tu dépeçais le bison, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'avais de la nourriture pour le village pour toute la semaine. Après ça, tu pouvais cueillir des carottes, tu cueillais des noix, tu cueillais des baies, tu pouvais chasser le poisson, Il y avait plein de différents types de façons de te nourrir, mais c'était très rustique. Puis il fallait que tu travailles très, très, très physique pour ça. Puis l'humain, en tant que tel, a évolué à travers ce mode de vie chasseur-cueilleur-pêcheur-là, en n'ayant pas le choix de vivre des jeûnes, parce qu'il y avait des saisons plus mortes, il y avait des saisons plus froides, il y avait des saisons où il n'y avait pas d'agriculture ou beaucoup moins d'agriculture. Fait que l'humain est venu en développer des concepts physiologiques et physiques pour réussir à survivre à travers tout ça. Parce que si le jeûne n'avait jamais fait partie de l'être humain et de notre société, on va dire, on n'aurait probablement pas réussi à survivre comme, on va dire, race. Puis ce qui est intéressant en tant que tel, c'est que l'adaptation génétique et métabolique, biologique qu'on va dire, c'est que notre corps en tant que tel n'a pas eu le choix de s'adapter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va être en rupture de nourriture, qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir manger, il y a des principes physiologiques que maintenant on a, qu'on ne se rend même plus compte parce que ça fait juste partie de nous, mais que dans le temps, il n'y avait pas. Puis qui n'ont pas eu le choix de développer génétiquement pour réussir à survivre. Le rôle des graisses. Puis tu sais, souvent les personnes vont venir nous voir en nous disant « je veux perdre du gras ». Puis c'est correct, fine, si tu as 70-80 livres de gras sur toi, c'est important d'en perdre parce que ça va diminuer ta longévité, ça va diminuer beaucoup de choses, puis ça va te taxer. Sauf que si on y va d'un autre sens, le plus de réserves de graisse que tu as sur toi, le plus de réserves de survie que tu as sur toi. Et dans le temps paléolithique, on va dire, où ils devaient chasser, cueillir puis pêcher, ils ont eu à développer cette capacité-là de pouvoir manger un bison, manger énormément de quantité d'énergie. Là, le corps va commencer à aller remplir certaines voies d'énergie. Premièrement, ça va être le foie, et ensuite de ça, ça va être les réserves de glycogène musculaire, l'énergie à l'intérieur de votre muscle qui est prêt à être utilisée pour retourner à la chasse. On parle d'environ 24 heures d'énergie à travers tout ça. Et là, par la suite, le corps, s'il recevait un surplus calorique supplémentaire en mangeant le bison, les noix, etc., il allait créer des réserves adipeuses. Et à chaque 3500 calories qu'on consomme, on accumule une livre de graisse. Donc, si, exemple, on mangeait, je ne sais pas moi, le flan, le gras, qu'on mangeait tout le bison et qu'on réussissait à aller chercher, on va dire, en l'espace de une semaine et demie, en consommant ça, 10 000 ou 15 000 calories de gras, de protéines principalement. Bien, notre corps va aller stocker peut-être un 3 à 4 livres de graisse et ça va faire en sorte que si la personne a un métabolisme de 1500 calories ou 1600 calories, elle va être capable de survivre pendant 10 jours en phase de famine parce qu'elle a créé des réserves adipeuses autour de elle qui vont être un instinct de survie, un mode de survie. C'est super intéressant parce que, tu sais, dans le temps de la royauté, dans le temps des années, je pense, c'est 1700-1800, le peuple était extrêmement mince et était en famine, il ne mangeait pas et le roi était extrêmement gras. Puis il savait très bien que s'il y avait des cas de famine, puis dans ce temps-là, il y avait des cas de famine, ben des mauvaises agricultures ou des saisons mortes, des choses de même, ben le roi était capable de survivre et le villageois allait mourir tout simplement. Fait que c'est intéressant de voir comment l'humain a évolué derrière tout ça. T'avais-tu un... OK. En tant que tel, il existe un deuxième principe au niveau du jeûne intermittent qui est super intéressant. C'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique que le corps a eu à développer dans le temps paléolithique pour réussir à survivre. Tantôt, j'en ai cité un petit mot, mais d'être capable de passer du sucre aux graisses. En premier lieu, le corps, avant de développer ces principes-là, c'était une question de calories. Il devait consommer. Il mangeait probablement 300 calories un repas. Après ça, il flyait en phase de jeûne. Après ça, il en mangeait 200 calories. Puis, il avait une espérance de vie jusqu'à l'âge de 30 ans. Et le fait de pouvoir développer des réserves de graisse autour de lui, l'espérance de vie a grandi quand même assez drastiquement. Mais, tantôt, je parlais des réserves de glycogène musculaire. Le fait d'être capable d'aller accumuler de l'énergie à l'intérieur de ton muscle, le glycogène, et de l'énergie à l'intérieur de ton foie, le glycogène hépatique, on est capable d'utiliser cette énergie-là et non pas d'aller dans nos réserves adipeuses. Puis ça peut peut-être être un petit cue pour les personnes qui veulent perdre du poids, mais principalement, tu as des réserves autour de toi. Et si tu t'en vas bouger, faire de l'activité physique, mais que tes réserves-là sont tout le temps ultra pleines, tu ne vas jamais aller dans ta graisse ou très rarement dans ta graisse. Tu vas toujours être dans tes réserves de glycogène. Tu vas les vider, tu es rempli, tu es vide, tu es rempli. Puis au final, c'est une raison du pourquoi on ne perd pas de poids. Parce qu'on n'est jamais en déficit calorique puis qu'on remplit plus les réserves qu'on les vide. C'est super intéressant ça, mais la capacité du corps à pouvoir utiliser l'énergie stockée à l'intérieur de ses muscles, ben ça, c'est un gros instinct de survie parce qu'on n'est pas toujours en train de perdre du poids. Avec le mode de vie que les gens ont actuellement, qui mangent beaucoup d'énergie mais de très mauvaise qualité, ils accumulent excessivement beaucoup de réserves graisseuses, mais ils se ramassent dans une situation où ils dépensent très peu. Fait que si le corps avait la capacité de pouvoir aller puiser dans les graisses très facilement et non pas juste dans le glycogène, on serait probablement moins capable de survivre longtemps. Ça créerait moins de désordre métabolique, puis ceux qui devraient... En fait, par rapport à ce mode de vie-là, ceux qui n'auraient pas un instinct de survie très haut parce qu'ils ne mangent pas bien, ben ils décéderaient tout simplement. Mais là, le corps a développé cet instinct de survie-là. Fait que c'est super intéressant de voir au niveau de l'évolution parce que le jeûne intermittent, c'est beaucoup plus complexe que juste « j'arrête de manger pendant 16 heures ». Puis après ça, je vais manger pendant 8 heures. C'est un principe physiologique. Puis je veux vous expliquer vraiment cette histoire-là. Le troisième point, c'est très important ça. La conservation de la masse musculaire. Le corps a évolué et a créé des principes que lorsqu'on ne mange pas, puis je vais expliquer une grosse histoire tantôt, mais lorsqu'on ne mange pas, on pense qu'on va dévitaliser notre muscle puis qu'on va commencer à brûler notre masse musculaire. Mais réellement, qu'est-ce qui va se passer? En premier lieu, le corps va utiliser le glycogène musculaire. Fait que là, il va survivre pendant une journée complète. Ensuite de ça, le corps va commencer à produire des corps cétogènes, à aller nourrir le cerveau. Fait que là, on va commencer à... Ben en fait, on ne perdra pas de cognitivité. On va se sentir même très, très bien cognitivement. Par contre, on n'a plus d'énergie dans le glycogène. On n'a pas d'énergie biodisponible dans notre sang. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer à ce moment-là? On a nos réserves de graisse. Là, il va commencer à l'épuiser dans ces réserves de graisse-là. Mais naturellement, on pense que le corps va vouloir aller juste tout simplement ronger des calories autour du corps, masse musculaire et masse adipeuse. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on tombe en jeûne, le corps a développé, encore une fois pour l'instinct de survie, une capacité à protéger la masse musculaire et à éviter le plus possible cette fonte de masse musculaire-là en sécrétant une hormone qu'on appelle l'hormone de croissance. Et durant le jeûne, le corps augmente la production d'hormones de croissance quand même considérablement pour préserver la masse musculaire et favoriser la réparation de tous les tissus du corps. C'est un mécanisme en tant que tel qui permet à tous nos ancêtres de réussir à survivre et, on va dire, à survivre à travers toutes les années et toutes les phases de famine.
Tu sais, dans le fond, le corps n'a aucun avantage à aller puiser dans sa masse musculaire. C'est genre 200 livres de trop de graisse. Là.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, c'est logique qu'il aille développer ça, mais à base, il n'y a aucun avantage à le faire. Ben, fait que tant mieux.
C'est logique. Tu sais, si on regarde, admettons, le principe d'évolution, si, admettons, le corps, ben, c'est un ensemble de trilliards de fonctions logiques qui s'est passé depuis le début de l'humanité, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est là, qu'on est vivant, qu'on a un cœur qui bat, qu'on a plein d'hormones, puis tout travaille en corrélation. Puis si tu retires une hormone, le corps est déstabilisé complètement. Si tu retires un organe, le corps est déstabilisé complètement. Fait que c'est un ensemble de plein de petites fonctions logiques, mais c'est quand même impressionnant quand on regarde ça, le corps humain. Puis ce qui est intéressant au niveau de la perte de masse musculaire, c'est que j'en vois des fois ici avec la bioimpédance. Mettons qu'on va prendre, exemple, une femme de 40 ans, 5 pieds 3, cette femme-là pèse 122 livres, puis elle devrait peser génétiquement et naturellement 140 livres. Ce qui veut dire qu'elle est 18 à 20 livres en bas de son poids santé ultime. La personne n'est pas très grosse, mais en même temps, la personne a 95% ou 92% de sa masse musculaire génétique. Fait que la personne, en tant que telle, oui, il y a eu probablement des phases de famine, ou il y a eu probablement un très fort déficit calorique, ou il y a eu des déficits ou des troubles pathologiques, ou peu importe la raison du pourquoi, elle a autant brûlé de la masse musculaire, mais il y a des raisons du pourquoi. Puis, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Faiblesse, arthrite, arthrose, douleur chronique, fatigue nerveuse, insomnie. Elle va vraiment avoir la totalité de la cascade des petites problématiques qu'elle devrait avoir juste parce qu'elle n'a plus de masse musculaire. Fait que le corps, si, exemple, il y avait eu à aller puiser dans ta masse musculaire à cause que tu étais en phase de jeûne dans le temps paléolithique, tu n'aurais pas pu aller chasser. Puis là, il sait que tu serais mort. Fait que le fait était, on veut préserver la masse musculaire, donc développer des pathways biologiques pour préserver le muscle et être capable de continuer de faire la chasse, la cueillette, et etc. C'est quand même vraiment capotant. Les exemples culturels, je trouvais ça super intéressant de sortir ça, mais le jeûne intermittent, à la base, là, c'est rendu popularisé. Puis, by the way, on ne recommande pas le jeûne, mais on le recommande en même temps. Ça dépend tout le temps de chaque personne. Tout comme le keto, tout comme le vegan, tout comme le carnivore, il n'y a pas de juste milieu. C'est toujours dû adapter à la personne. Fait que par rapport à votre condition, par rapport à vous, faites les bons choix. Ça, c'est certain. Le jeûne intermittent, la base première, c'est de purifier le corps. Puis c'est comme ça qu'en tant que tel, la plupart des religions vont l'utiliser. J'en ai cité quatre. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais principalement, les musulmans vont utiliser le ramadan. Puis le ramadan, en tant que tel, comment ça fonctionne? C'est qu'ils vont utiliser un jeûne très strict du lever du coucher du soleil au coucher du soleil sans nourriture ni aucune boisson. Fait qu'eux autres, c'est un jeûne sec complet. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, puis principalement, je pense qu'ils peuvent juste manger pendant la nuit. Et le but du jeûne du ramadan, c'est de... Dans le fond, c'est au niveau spirituel. Ils veulent être capables de renforcer la discipline, réduire les taux de sucre, fait qu'il y a un effet thérapeutique derrière tout ça, amener une perte de poids modérée parce qu'ils vont créer un déficit calorique, mais aussi, il y a un autre point. C'est pour essayer d'égaliser en tant que tel au niveau de la société et sociale, de faire en sorte qu'une personne qui est riche, qui fait le ramadan, va se mettre dans la peau d'une personne qui est pauvre et qui n'a pas la capacité de pouvoir manger. Fait que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont juste essayer d'égaliser en tant que tel les différentes, on va dire, la société et les différences au niveau de la société entre les riches et les pauvres, en amenant le riche à pouvoir manger comme un pauvre pendant ces moments-là. Fait que c'est intéressant quand même comme concept.
Donc le ramadan est beaucoup plus religieux.
Beaucoup plus religieux, mais il reste quand même qu'ils ont un principe de purification de l'être et purification de l'âme. C'est ça le principe aussi. C'est, ils veulent amener à discipliner le corps, à ne pas devenir dépendant de la nourriture. Si on regarde le deuxième, le carême, qui est dans les peuples chrétiens, ben, tu sais, le christianisme et tout, en général, c'est une période de 40 jours dans le temps des fêtes qui fait en sorte que les gens doivent réduire volontairement la consommation de certains types d'aliments. Mais majoritairement, pas de sucre et pas de viande. Ils veulent diminuer les viandes le plus possible. Le but, c'est un renforcement spirituel et la purification du corps. Fait que, en coupant encore une fois les sucres, en coupant encore une fois la viande ultra transformée et toutes les cochonneries en fait que la population peut nous offrir, l'alimentation peut nous offrir, ça va purifier le corps. Le bouddhisme, Ça, c'est très intéressant aussi. Certains moines pratiquent des jeûnes de 36, de 48, voire de 72 heures pour se concentrer sur la méditation et la purification de l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait un jeûne, puis on va en parler tantôt, on va sécréter, dans le fond, lorsqu'on arrive dans une phase où il n'y a plus d'énergie biodisponible et que le glycogène commence à se libérer du corps et que là, le corps n'a plus d'énergie dans le muscle. On va commencer à sécréter des corps cétoniques. Puis ces corps cétoniques-là vont directement devenir le premier élément qui nourrit le cerveau. Et c'est, on va dire, c'est pas prouvé parce que j'ai pas l'étude directement là, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dire qui disent que les personnes qui veulent faire de la méditation réussissent à embarquer énormément plus profondément dans leur méditation. Les personnes qui font des voyages astrales, des choses de même, sont capables d'embarquer beaucoup plus deep à l'intérieur de leur côté spirituel. Donc, les moines, le bouddhisme, utilisent le jeûne intermittent pour amener les corps cétogènes à nourrir le cerveau et à être capable de pousser encore plus loin tout ce qui est méditation prolongée, etc.
Intéressant.
Très, très, très intéressant.
Je ne connaissais pas.
Et le dernier, c'est l'hindouisme. La pratique du jeûne est en, par rapport au cycle lunaire. Les jeûnes qui visent à harmoniser le corps et l'esprit avec le rythme naturel. Fait que dans le fond, eux autres, ils vont vraiment rebalancer leur cycle circadien et ils vont vraiment manger par rapport au soleil et à la lune. Associé à une détoxification du corps et une augmentation de l'énergie spirituelle. Fait qu'encore une fois, on peut voir que lorsque l'être humain mange, il est en digestion et le corps est occupé à digérer, à nettoyer, à réguler toute la kit. Et lorsqu'on est en jeûne, on est beaucoup plus présent pour certaines fonctions biologiques qu'on n'a pas pendant qu'on mange. Fait que justement, la cognitivité et toute la kit. Moi, j'en ai fait plusieurs fois des jeûnes, puis je me rendais compte que c'était les journées où j'avais le plus de cognitivité. C'est là où j'étais le plus focus à faire du travail et tout. Fait que passer un 8 heures à créer une stratégie ou créer, admettons, un webinaire ou bien une présentation ou quoi que ce soit, un jeûne intermittent pour moi, super efficace. Fait que principalement, c'était les différents... En fait, c'était l'histoire derrière le jeûne, comment ça s'est développé, la société, comment elle l'a utilisé depuis des centaines et des centaines d'années. Puis là, on se retrouve dans un monde où le jeûne intermittent, c'est une méthode drastique de perte de poids où tu fais un 16 heures, puis après ça, t'arrêtes de manger pendant 16 heures, puis après ça, tu manges pendant 8 heures. Puis les gens, en général, font ça un peu tout croche. À 90-95% du temps, même 95-98% du temps, quand on rencontre du monde ici en clinique, puis qu'on évalue leur alimentation, puis qu'ils me disent « moi, je fais des jeûnes », ils font tout croche, puis ils dévitalisent leur corps beaucoup plus que de purifier et de faire en sorte d'aller créer un... pas un déficit calorique qui crée des famines puis de la carence puis tout. Fait que tous les principes, on va dire, super intéressants et thérapeutiques, ils les ont pas.
C'est là qu'on voit que le jeûne, c'est très relatif d'une personne à l'autre parce ouais. que moi, j'ai des personnes que je connais qui adorent faire des jeûnes puis ils se sentent super bien puis je suis comme, ben, continue, c'est correct. Puis il y en a d'autres qui détestent faire des jeûnes puis qui ne se sentent pas bien, ben, fais-le pas. Tu sais, je veux dire, c'est, il y a des bienfaits, mais c'est pas obligatoire à instaurer. Puis comme tu as dit, ben, la plupart des personnes qui vont faire des jeûnes intermittents, c'est qu'ils font juste de dire ben, « je coupe un repas ». Ils déjeunent pas, dans le fond. Mm. Fait que, ils font pas tant un jeûne, ils font juste de skipper le déjeuner. Mais après ça, ils vont dîner avec genre un assiette de ballon de mettons, sandwich au ballonné. Puis là, au bout de la ligne, ils créent 20 carences.
Puis le soir, ils pètent une rage.
Ben, c'est ça. Puis là, après ça, ils ont faim, puis ils se demandent pourquoi. Puis là, ils mangent du sucre le soir à côté pour compenser le fait qu'ils n'ont pas déjeuné le matin.
Et voilà.
Fait que tu sais, c'est juste vraiment, vraiment mal fait. Il y a des façons de le faire intelligemment. Puis il y en a gros là, qui disent à le jeûne, ça marche pas, c'est de la petite merde, j'ai faim, telle affaire. Mais c'est parce que tu le fais tout croche.
Moi, je me suis rendu compte, puis ça, c'est vraiment une perception personnelle parce que j'ai rencontré des milliers de personnes ici en clinique. Les personnes qui ont un tempérament très calme, un neurotype vraiment moins anxieux et stressé, c'est des personnes qui s'adaptent bien à un jeûne. Les personnes qui sont très stressées, très sportives, très actives, les personnes qui vivent de l'anxiété et tout, ces personnes-là, tu leur donnes un jeûne, tu t'es fait péter aux frites.
Ouais.
Fait que principalement, ça va vraiment avec le type neurologique de la personne et tout. Moi, je sais que je suis une personne plus calme, je fonctionne quand même bien avec ça, quoique j'ai mes moments d'énergie. Toi, je sais que les jeûnes, probablement que tu dois pas nécessairement être optimal avec ça.
Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais quand j'ai fait ça, je suis là super bien.
Tu filais bien. Ouais, mais tu es discipliné. Tu sais, toi, ce qui doit être fait. Fait. Ouais. Mais dans, mettons, on va dire, dans la performance, dans ton quotidien, dans ta cognitivité et tout, non, ça tirait quand même bien. Par rapport à ton profil, par rapport à ce que je te connais, ça tirait bien. Ouais.
J'aime mieux manger.
Ouais, c'est bien meilleur manger.
Je passe au deuxième point qui est l'autophagie, le principe du nettoyage cellulaire. Puis je me suis mis un point que je voulais faire la différence entre les deux. On parle de l'autophagie souvent reliée avec le jeûne. Et là, je vais faire un lien sur l'autophagie reliée avec la restriction calorique simplement. Je vais expliquer un petit peu la différence entre les deux. Fait que premièrement, je vais la lire, là, la définition de l'autophagie, OK? L'autophagie est le processus naturel de nettoyage et de recyclage des cellules. Quand une cellule est stressée, manque de nutriments ou a des composants endommagés, elle utilise l'autophagie pour se « dévorer » entre guillemets elle-même. et transformer ces déchets en énergie ou en nouveaux matériaux. Cela aide à maintenir les cellules en bonne santé et à prévenir les maladies. C'est un peu comme un service, j'aime quand même cette phrase, c'est un peu comme un service de ménage interne pour garder le corps en équilibre. Le fonctionnement de l'autophagie, comment ça fonctionne? L'autophagie est activée en cas de stress cellulaire, tantôt tu parlais de déficit calorique ou de jeûne, effectivement, comme le jeûne, la restriction calorique, le manque de nutriments, qui revient un peu aussi à ça, l'exercice intense ou l'accumulation de déchets dans les cellules, et également lorsque le mTOR est désactivé, signalant à la cellule de passer en mode survie et recyclage. Mm-hmm. Et le mTOR, on avait parlé dans un podcast qui était la prise de masse, prise de masse musculaire. Mais en gros, très simple, le mTOR, c'est une protéine qui régule la croissance cellulaire, puis est activée avec nutriments, donc quand on parle, ça bloque l'autophagie, puis est désactivée avec le manque de nutriments qui, ça, déclenche l'autophagie. Le mTOR est stimulé par, on va dire, quatre choses principales, qui est les protéines, principalement un des acides aminés des protéines, qui est la leucine, qui est celui qui va le faire le plus déclencheux. Deux, les glucides, avec l'insuline, parce que ça augmente les niveaux d'énergie, et s'il y a plus d'énergie parce qu'on mange, ben, le mTOR est activé. Les facteurs de croissance comme l'insuline et l'IGF-1 et la disponibilité énergétique, donc en fait glucose, ATP. Donc en gros, très simplement, le mTOR va être activé s'il y a de l'énergie au niveau du corps et si en fait il est activé, ben, l'autophagie ne peut pas se faire. Fait que c'est un peu ça. Et quand tu fais un jeûne, ben, t'as pas de calories, rien, donc le mTOR est désactivé et tu peux passer au principe de l'autophagie. Okay? Maintenant, les bienfaits.
Je peux-tu t'arrêter?
Vas-y, vas-y.
Ce que je trouve intéressant, c'est lorsqu'on fait un jeûne, ça doit pas être évident de développer de la masse musculaire.
Ça doit être vraiment difficile. Ça doit être le côté hormone de croissance que tu parlais tantôt, ouais. Mais tu sais, même là, c'est parce qu'il faut que tu sois en surplus calorique.
Faut que tu sois en surplus calorique.
Tu sais, il y a le côté, c'est différent entre développer de la masse musculaire et maintenir sa masse musculaire.
Ouais.
Parce que si tu fais un jeûne, parce que tu sais, tantôt, tu parlais d'un côté évolutionnaire, sur un point de vue de survie. Fait que, est-ce que le but était de nécessairement développer du muscle? Ben oui, clairement, ça pouvait aider là, à chasser et tout. Mais leur objectif numéro un était de ne pas perdre cette masse musculaire-là. Fait que l'hormone de croissance va te permettre de faire ça. Mais si t'es toujours, toujours en gros déficit calorique,
puis t'as pas avoir...
Ben, en plus, c'est ça, exactement. Ouais. T'as pas de glucides, t'as pas de leucine. Mm. Ça ressemblait les deux mots à glucide et leucine.
Ouais.
Donc, t'as pas d'mTOR, donc t'as pas d'activation au niveau cellulaire. Fait que tu peux pas créer vraiment de nouveaux tissus à moins de... Écoute,
fait que préserver de la masse musculaire, mais pas de développement. Fait que le jeûne intermittent, si on regarde par rapport à qu'est-ce qu'on en voit ici, très difficile à développer de la masse musculaire, puis on en reparlera tantôt, dans la fenêtre où on doit consommer, on en reparlera.
Ben en fait, c'est ça, je sais pas si on va venir là-dessus, mais tu sais, juste, je sais pas si t'allais là-dessus, mais dans le fond, est-ce que tu peux développer de la masse musculaire en jeûne intermittent?
Oui.
Ben oui, parce que l'affaire, c'est que si, tu sais, le jeûne intermittent, c'est pas de manger pendant une fenêtre de temps. Fait que, mettons qu'on prend le classique 16-8 qu'on entend tout le temps, là. Si pendant 16 heures tu manges pas, mais que t'as un estomac qui est vraiment, genre toi, littéralement, tu peux manger n'importe quand, n'importe quoi à l'infini, là. Ben, si pendant tes 8 heures, t'es capable de te dégober 3500 calories, tu vas voir les mêmes bienfaits, là. La seule affaire, ça se peut qu'au niveau digestif, ça va être plus raide, mais réellement, tu pourrais quand même bâtir de la masse musculaire.
Ça va bien se faire.
Ben oui, pendant que tu vas manger, peut-être pire, là, mais tu sais, c'est relatif d'une personne à l'autre. Fait que, est-ce que tu peux bâtir du muscle en jeûne intermittent? Oui. Est-ce que tu peux bâtir du muscle en jeûne prolongé? Non. Selon moi, non. Tu peux maintenir, mais même
j'ai
là,
déjà compté, je pense, un moment dans un podcast, la méthode sumo.
Comment on l'avait expliqué.
Sumo.
Probablement dans notre podcast de prise de masse, d'ailleurs.
Oui, probablement. Ben, c'est super intéressant, ça, parce que, tu sais, eux autres, ils veulent prendre du gras, mais principalement, ils font des jeûnes aussi à longueur de journée. Mais ils saturent leur profil enzymatique en mangeant un seul repas, mais à genre, mettons qu'ils ont un métabolisme de 3500 ou 4000, métabolisme total, puis qu'ils en mangent 10 000, ben ils ont 6 000 calories qu'ils sont pas capables d'absorber en un seul repas, et après ça, ils passent en phase digestion. Fait que c'est super intéressant parce qu'ils vont purifier et nettoyer le corps, prendre la peine de digérer tout leur repas, mais le surplus calorique, ça stocke tout. En tout cas, c'était super intéressant. Mais eux autres, ils prennent de la masse musculaire quand même à travers un jeûne.
C'est parce qu'ils mangent 10 000 calories.
Parce qu'ils mangent 10 000 calories.
Les bienfaits de l'autophagie. Nettoie les cellules en éliminant les déchets et composants endommagés. Régénère en recyclant les matériaux pour produire de l'énergie. Protège contre les maladies. En fait, je pense qu'on avait parlé ensemble, on parlait de cancer, là, face à l'autophagie.
Ouais.
Donc, incluant le cancer et les troubles neurodégénératifs. Renforce l'immunité, détruit les bactéries virus et ralentit le vieillissement en favorisant la régénération cellulaire. Je pense que j'en avais un autre côté. Effectivement, qui était améliore le métabolisme, prévenant diabète, obésité et aide à gérer le stress en utilisant les ressources internes en cas de privation. Fait que c'est un peu le seul concept de l'autophagie, puis le jeûne va permettre de l'activer comme le principe un peu de déficit calorique, qui d'ailleurs, justement, je rentre là-dedans parce que on entend souvent que le jeûne est la seule façon de, d'activer l'autophagie, ce qui n'est pas le cas parce que le déficit calorique peut le faire aussi. Et ce que les études démontrent sur le jeûne prolongé, je l'ai ici. Certaines études ont démontré que l'autophagie est fortement activée lors de jeûne prolongé. On vient de le dire. Au-delà de 16 à 24 heures chez l'humain ou en condition expérimentale chez les rongeurs, les rats principalement. Cela est dû à une privation extrême de nutriments, particulièrement des acides aminés qui déclenchent la diminution du mTOR. Pourquoi la restriction calorique peut aussi induire l'autophagie? Donc, ce n'est pas juste le jeûne, mais aussi la restriction calorique. Pourquoi? Le déficit calorique, même sans jeûne prolongé, est également capable d'activer des mécanismes d'autophagie. Une réduction des apports alimentaires diminue graduellement l'activité de mTOR ou du mTOR, augmentant ainsi l'autophagie. La consommation de petites quantités d'aliments, même en restriction calorique sévère, ne peut ne pas complètement arrêter l'autophagie, surtout si ces repas sont faibles en protéines, laissant la voie de l'autophagie active pour combler les besoins énergétiques. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que même si on mange un petit peu de protéines ou de glucides, c'est principalement les protéines, probablement qui parlaient de la leucine, qui est l'acide aminé le plus qui fait activer le mTOR, ben, l'autophagie n'est pas nécessairement désactivée à 100%. Fait que c'est vraiment assez intéressant de voir ça. Et selon la science, le jeûne n'est pas une condition obligatoire pour déclencher l'autophagie, mais, et ça c'est moi qui l'avais acheté, elle peut grandement l'aider. Parce que, tu sais, on dit jeûne et restriction calorique. Oui, tu n'es pas obligé de faire un jeûne pour activer l'autophagie parce que si tu es en déficit calorique et que tu as moins de nutriments, tu actives moins le mTOR, tu peux déclencher l'autophagie. Mais c'est bien plus facile dans un jeûne parce que tu ne manges rien. Tu as bien plus de chances de l'activer bien plus longtemps que si tu crées un déficit calorique, à moins que tu calcules de A à Z tout ce que tu fais. Parce que si tu dis ben, « je vais créer un déficit calorique, je vais embarquer dans l'autophagie », tu calcules pas trop tes affaires, tu penses que tu es en déficit, mais dans le fond, tu l'es peut-être pas. Fait que là, tu crois que tu l'actives versus un jeûne, c'est sûr que tu l'es. Fait que c'est comme, tu n'es pas obligé, mais ça l'aide définitivement. Okay? Fait que
moi,
ça,
j'adore c'est utiliser... Mettons, le jeûne intermittent très spécifique chez des personnes qui démontrent des points de toxicité très, très hauts. Une personne, exemple, qui est très inflammée. Une personne qui va avoir, exemple, elle me dit qu'elle a une hypothyroïdie décelée par son médecin. Ou tout simplement la personne qui...
Diabète de type 2, énormément.
Mais en général, c'est vraiment plus... Moi, j'aime utiliser jeûne pour tout ce qui est toxicité. Diabète de type 2, j'aime la reprogrammation alimentaire et, tu sais, programmer la personne à bien comprendre comment gérer ses hydrates de carbone, comment les utiliser, les réserves de glycogène, et etc. L'activité physique, probablement que c'est la chose la plus importante pour eux autres aussi. Déficit et activité physique. Mais chez les personnes qui démontrent des gros points de toxicité. Je te donne un exemple très simple. J'ai rencontré une femme récemment. Elle a fait un test de métaux lourds ici. Elle est intoxiquée aux métaux lourds, mais elle est intoxiquée pas rien qu'aux métaux lourds, à plusieurs autres différents molécules. Je ne sortirai pas ces stats-là, là, mais puis cette personne-là, dans le fond, introduire un à deux jeûnes par semaine de peut-être un 16-8, on en reparlera tantôt, avec beaucoup d'antioxydants, style du curcuma, du resveratrol, du polyphénol, puis on va introduire la L-glutation, ça va permettre aux antioxydants, pendant le jeûne intermittent, pendant que l'autophagie est activée, de pouvoir aller dans la cellule, nettoyer la cellule, recycler toutes les toxines, les reconnaître et ensuite les envoyer vers la diurèse puis les voies d'élimination. Fait que j'adore utiliser le jeûne intermittent pour son pouvoir thérapeutique, mais pas pour son pouvoir de perte de poids. Parce que le pouvoir de perte de poids, au final, les gens en général, si tu fais un 16 heures de consommation et un 8 heures où tu manges, ils ne sont pas capables de manger leur métabolisme total à l'intérieur de cette 8 heures de consommation-là. Moi, je suis capable, je mangerai un dinosaure au complet. Mais, tu sais, je donne un exemple de la dernière fois que j'ai fait un jeûne, je capotais quand même, mais j'avais fait un jeûne de 20 heures. Puis moi, ce que j'avais fait, c'est que dans le fond, en 4 heures, il fallait impérativement que je mange l'équivalent d'environ 2200-2400 calories pour atteindre mon métabolisme basal plus un peu d'activité physique, mais j'étais en déficit dans cette journée-là. Puis je me souviens, j'avais fait un jeûne du soir jusqu'au dîner. Ça m'avait fait un 20 heures total. J'avais arrêté plus tôt dans l'après-midi. Puis moi, j'aime déjeuner. Fait que mon dîner, c'était un dîner-déjeuner. Puis j'avais 4 tranches de pain, 4 œufs, une grosse tranche de jambon sans nitrite. J'avais un gros morceau de fromage. J'avais beaucoup de noix. J'avais mis du beurre de noix sur mes toasts. J'avais tellement de nourriture. Je me souviens, ma blonde avait à capoter en voyant ça. Puis jamais elle aurait pensé que j'étais capable de tout manger ça. Mais dans mon déjeuner, j'avais l'équivalent d'environ peut-être un 1300-1400 calories. Les noix ont grandement aidé. Puis même pas 2 heures après, fallait que je remange un repas quasiment aussi gros que ça. Le monde, en général, ne sont pas capables de faire ça. Là. Fait qu'un homme qui fait des jeûnes intermittents, ben souvent, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va créer des carences alimentaires parce qu'il ne mange pas assez. Et là, après ça, il va se retrouver dans une situation où il va aller se manger un gros Big Mac ou il va aller se manger des croquettes ou de la malbouffe, puis il va tomber
dedans. C'est ça l'affaire, c'est que ça dépend comment tu es capable de le gérer. Parce que même si tu n'atteins pas ton métabolisme dans une journée, on s'en fout. Là, parce qu'au bout de la ligne, ça va t'aider à plein d'affaires. Mais si la personne, après ça, le fait de ne pas atteindre son métabolisme, ça fait en sorte qu'elle a plein de carences, qu'elle a faim, qu'elle a le goût de manger plein d'affaires, puis qu'elle va se dégober là, justement plein de chips et des biscuits, c'est là la problématique. Mais si tu es capable de faire un jeûne intelligent, puis tu manges, on va dire, juste un repas dans ta journée, puis c'est un super bon repas, tu as mangé 1200 calories, puis ton métabolisme, il y a une 1700, basal, là, il y a une 1700, puis ton total est genre 2000, on s'en fout. Mais faut qu'après ça, tu repasses à la traque. Le problème, c'est que si tu le fais tout le temps, tu vas impérativement, en temps et lieu, finir par ralentir ton métabolisme.
Et avoir des rages. Et...
c'est que les gens le font mal, c'est tout.
Ouais, ben les gens le font mal, mais c'est parce que les gens n'ont pas le niveau de conscience. Puis tu sais, comme tu en parles, c'est le niveau de conscience qui va faire ça. Puis les gens, quand ils viennent nous voir, ben il y a tellement... ils connaissent 5%, même pas 2% du plein potentiel de comment utiliser le jeûne. Puis ils le mettent en application tout croche, mais dès l'instant qu'on fait juste leur donner une structure, une stratégie, puis que là, ils commencent à le faire, oh, OK, c'est intéressant, là, je vois tous les bienfaits. Mais auparavant, ils ne faisaient pas nécessairement différent. C'est juste une question de calories consommées, de timing, de façon de l'utiliser. Tu sais, c'était un plan de match. Puis quand ils ont le plan de match en main, ben là, après ça, ça roule, puis ils ont des beaux résultats, puis de la kit.
Je continue.
Ouais.
Pourquoi les études semblent parfois en contradiction? Je faisais le lien sur jeûne intermittent, en fait, jeûne en général et restriction calorique, simplement. Parce que c'est simple, les niveaux d'autophagie varient selon des facteurs individuels. Okay, on parlait, oui, le côté, mettons, le fait de faire des jeûnes, que, est-ce que tu aimes ça, est-ce que tu n'aimes pas ça, est-ce que tu as de la discipline, est-ce que tu as moins de discipline. Mais il y a le côté également, tout ce qui est âge, sexe, l'activité physique, ton état de santé métabolique. Tantôt, on parlait de, tu me disais, tout ce qui est problématique au niveau du corps humain. Je te parlais de diabète, résistance à l'insuline. Il y a des choses qui vont changer là-dedans, qui vont varier chez les personnes quand on parle de l'autophagie. Chez certaines personnes, un jeûne prolongé peut être nécessaire pour déclencher une autophagie notable, tandis que d'autres verront une activation suffisante avec une simple restriction calorique. Fait dans le fond, c'est pas de dire est-ce qu'un ou l'autre, c'est la bonne affaire, c'est que les deux fonctionnent. Il y en a un, selon moi, qui est plus facile à l'atteindre qui est le jeûne parce que c'est plus simple. Tu manges rien, tu as moins de chance d'avoir, t'as moins de chance de pas avoir l'autophagie, mais la restriction calorique également le permet. Et en passant, tantôt, tu disais 16-8, je revenais à quelque chose qui est quand même assez mal compris. Je pense que c'était Christa Thibodeau qui avait parlé de ça maintenant dans une formation. Puis il disait... tu sais, quand tu fais un jeûne, mettons exemple qu'on parle d'un 16-8, ben réellement, si tu, on va dire, tu finis de manger à 8 heures le soir, puis tu déjeunes à midi, mais ben là, réellement, ça fait 16 heures calculées sur ta montre ou ton horloge, ton peu importe. Mais réellement, est-ce que ça fait vraiment 16 heures que tu es en jeûne?
Absolument
non,
pas.
Parce que l'affaire, c'est que quand tu manges à 8 heures le soir, mettons qu'on va dire tu soupes à 7h30, puis qu'à 8h, tu as fini de manger. Ben là, l'affaire, c'est combien de temps ça va prendre avant que tu sois réellement, que ton corps l'absence commence d'aliments. À aller chercher au niveau du jeûne. Des fois, ça peut prendre 1 heure si tu prends un repas qui est très, très, très petit, jusqu'à peut-être 5, 6, 7 heures si c'est un repas qui est plus grand, puis dépendamment de qu'est-ce que tu vas manger. Fait que réellement, la plupart du temps, quand on calcule un exemple, un 16-8, c'est plus un 12 que tu vas aller chercher qu'un 16. Fait que moi, mettons ce que je disais, j'en utilise plus tant des jeûnes, ben honnêtement, mais quand j'en utilisais souvent, ce que je disais, c'est si tu veux aller chercher les bienfaits d'un 16-8, fais un 24.
Ouais.
Fait que comme ça, en allant faire un 24, tu as un 4 heures à peu près de digestion que tu vas aller chercher les bienfaits d'un jeûne de 16 ans.
Mais il est beaucoup plus difficile le 24 que le 16-8.
Ouais.
Mais de faire en sorte, parce que là, en ce moment, dans la société, on a une problématique de personnes qui mangent trop. On mange trop, on meurt parce qu'on mange trop. Puis
tu sais quoi la moyenne de calories aux États-Unis?
2008.
Non, 3500.
3500.
3500.
La dernière fois que je vous avais sorti, moi,
c'est la moyenne de calories que les gens vont consommer aux États-Unis. Puis la moyenne d'exercice physique par semaine, c'est une affaire comme. Ah non, excuse-moi, par. C'est-tu par semaine? Ça se peut pas par semaine, ça n'a pas de sens. J'imagine que c'est par jour, là, c'était moins de 15 minutes. Fait que tu manges 3500. Ouais, c'est ça, c'est par jour, dans le fond. Si tu manges 3500 calories de moyenne par jour, puis tu as de la misère à bouger plus que 15 minutes, essaie d'avoir un métabolisme total qui dépasse 3500, c'est impossible. Les gens prennent du poids.
Ben, en fait, la seule façon de le faire, puis ils sont derrière de le faire, c'est de peser 400 livres et avoir 250 livres de masse musculaire derrière ces 150 livres de gras, là. C'est la seule façon de faire.
Qu'est-ce que
ça veut dire? Ben, tu sais, quand tu pèses 400 livres, le corps traîne tout le temps, on va dire, 200 livres de roche sur le dos. Fait qu'il y a impérativement pas le choix de bâtir de la masse musculaire avec tout ça, à force de manger tout ça. Fait que c'est pas mal le seul moyen que le corps peut avoir, mais tu sais, c'est super intéressant.
Je passe au prochain point.
Ouais.
Les bienfaits scientifiques du jeûne intermittent. En fait, je dirais du jeûne en général, mais on parle beaucoup du jeûne intermittent parce qu'il y a des jeûnes. Tantôt, tu vas parler des autres jeûnes, hein?
Ouais.
OK, c'est ça. Parfait. 1. Amélioration de la sensibilité à l'insuline. Quand tu fais un jeûne, tu réduis les niveaux d'insuline, évidemment, parce que tu ne manges rien. Et si tu ne manges rien, ton pancréas ne sécrète pas d'insuline, tu n'as pas de glucose. Fait que ça va aider à, excusez-moi, à donner une pause au niveau de ton pancréas, puis à aider au niveau de la sensibilité à l'insuline, donc la gestion de l'insuline.
Ça, ça l'aide énormément pour les personnes qui peuvent avoir un désordre métabolique qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et ça va faciliter vraiment, on va dire, le déstockage des graisses plus facilement. Parce qu'une personne qui a une résistance à l'insuline, c'est rough. Ça peut être plus rough pas mal pour eux autres en tant que tel de perdre du poids puis de l'équipe parce qu'ils vont avoir plusieurs désordres métaboliques et tout après ça.
C'était justement ma prochaine phrase, Jay. Cela peut être utile afin d'aider à gérer des troubles métaboliques, mais principalement, je dirais, le diabète de type 2. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent un peu, mais le diabète de type 2, c'est littéralement une résistance à l'insuline que tu maintiens pendant trop longtemps. C'est un peu ça. Okay? Santé digestive peut aider à réduire l'inflammation intestinale et les ballonnements. J'ai marqué en passant, c'est moi qui avais racheté pas toujours la solution, OK? C'est pas parce que tu fais un... C'est exemple, tu as des ballonnements tout le temps ou tu as de l'inflammation, tu te sens toujours pogné. C'est pas nécessairement parce que tu vas faire un jeûne que ça va t'aider à réduire ça. Ça peut aider dans quelques situations, mais c'est pas tout le temps la solution. Important à savoir. Cela peut favoriser une meilleure absorption des nutriments à long terme. Évidemment, si tu as moins d'inflammation, tu te gères mieux, tu as meilleure assimilation. Et on n'arrête pas de dire, c'est tout en ça au niveau de l'alimentation. Ce qui est important, c'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu assimiles. Mm-hmm. Si tu n'as aucune assimilation, ça l'aide pas.
Je vais rajouter un petit point sur la santé digestive. Il y a plusieurs fois où j'ai rencontré des personnes qui ont tellement des gros troubles digestifs à cause d'hypersensibilité alimentaire, à cause de mauvais choix alimentaire, à cause de dommages à l'intestin causés par un très mauvais mode de vie, trop d'alcool, trop d'acidité et tout. Puis ces personnes-là ont découvert le jeûne. Fait que là, ils ont commencé à pas faire des jeûnes, à arrêter de manger. Puis ils se sentent bien pendant qu'ils font des jeûnes, puis après ça, ils viennent avoir peur de manger. Fait que là, quand ils ont terminé leur jeûne, ils décident d'aller manger, manger encore un gros burger, frites, etc. Là, ils se sentent pas bien. La digestion est vraiment, vraiment pas optimale. Ils ont des crampes, ils ont des douleurs. Et qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Puis on en travaille beaucoup en clinique. La relation avec l'alimentation vient vraiment problématique parce que là, elle se sent bien quand elle mange pas. Puis elle se sent pas bien quand elle mange. Fait que là, la nourriture commence à être vraiment plus perçue comme étant, on va dire, un dommage pour le corps. Ça me ballonne, ça me fait pas du bien. Puis là, la personne, après ça, elle tombe un peu dedans, on va dire, du néant alimentaire où elle sait plus où se diriger. Elle sait plus qu'est-ce qu'elle peut manger, qu'est-ce qu'elle peut pas manger. Mais au final, c'est des cochonneries. Puis le fait de carencer ton corps, la digestion, après ça, en tout cas. Bref.
C'est un très bon point que ce que tu dis. Puis c'est une grosse problématique parce que quand on va sur Internet, là, puis tu marques, mettons, en fait, je ne l'ai pas essayé, mais si je m'en vais sur mon site et je marque perte du poids là, sur Google, là, tu vas sûrement avoir des articles de keto, tu vas avoir des articles de jeûne, tu vas avoir des articles de faut que tu sois vegan pour perdre du poids, tu n'as pas le choix. Tu vas avoir des articles, au contraire, il faut que tu sois carnivore, sinon tu ne perdras pas de poids. Mm. Après ça, tu as des articles qui disent de t'entraîner 8 fois par semaine. Mm. Puis là, tu vas avoir plein d'astuces d'affaires, mais au bout de la ligne, les gens sont tout mêlés parce que, puis ce que tu as dit, si j'adore le terme, c'est exactement ça, on en voit de plus en plus, ce qui est une grosse problématique. Mauvaise relation avec l'alimentation.
Absolument.
Parce que les gens n'ont aucune idée où s'aligner, puis ils ont tout le temps l'impression que la stratégie qu'ils vont faire, c'est comme la fontaine de jouvence qui va tout régler. Ce qui est rarement le cas, et la plupart du temps, ce que les gens vont se rendre compte, c'est quand ils se mettent à avoir un mode de vie qui est normal, sans être dans l'excès de rien, c'est là que ça fonctionne.
Ouais.
Puis à chaque fois qu'ils embarquent dans un excès X, hey, combien de fois qu'on voit des personnes qui nous appellent, qui disent hey, j'ai fait 22 régimes, j'ai fait telle affaire, puis toutes les compagnies que j'ai sur site que je nommerai pas, là, mais plein de compagnies de même,
toutes les mêmes
sont toutes écœurées, puis ils ont toutes peur de manger des fruits. Parce qu'ils ont peur que ils pensent que s'ils mangent des fruits, ils vont prendre du poids. Puis là, ils ont une mauvaise relation avec l'alimentation. Ils viennent nous voir. Puis là, c'est comme c'est dur parce qu'on n'est pas des psychologues. C'est vraiment pas ça notre travail. Mais en même temps, on travaille ça pareil avec la personne pour leur faire comprendre que ce qu'ils ont appris, c'est de la bullshit. Là. Puis c'est de rectifier ça un petit peu. Mais les gens sont tout mêlés. Puis c'est normal qu'il y ait des mauvaises relations avec l'alimentation aujourd'hui quand tu vois des affaires de même. C'est fou. Là.
C'est con parce que tu sais comment un peu Google AdWords fonctionne. T'sais, quand tu arrives sur Google, là, comme 99% du monde, quand ils cherchent à perdre du poids, vont aller sur Google, vont taper perte de poids, coach, peu importe quoi. Puis là, tu achètes quand. Mettons, toi, tu as une compagnie de keto, ou tu as une compagnie de jeûne, ou tu as une compagnie de n'importe quoi. Tu dois aller sur Google, tu dois payer pour des mots-clés, et là, tu vas payer pour le mot-clé perte de poids. Fait quand tu marques perte de poids, lequel paye le plus cher pour pouvoir avoir ton attention? Ça va être simple de même. Tu vas voir la personne qui est keto, parce que là, on entend de la keto, puis là, il est prêt à payer cher parce qu'il a fait du cash dedans des coups avant. Après ça, tu vas voir la personne, là, le carnivore commence à prendre l'espace. Là. Le deuxième lien.
Ça s'appelle Liver King?
Ouais, Liver King mange tout. Ah, c'est dégueulasse. Mange des œufs d'autruche crus, puis il mange de la coquille, puis c'est quoi ça, tu sais? Mais là, après ça, tu vas voir le carnivore en deuxième. En bas, tu as le jeûne intermittent, tu cliques dessus, t'as une belle fille ou un beau gars super en shape, ses gros abdos, c'est le stock à côté, mais ce gars-là va te dire tu manges un seul repas par jour, mais tu peux manger tout ce que tu veux. Je suis au restaurant, regardez-moi avec les abdos, je suis en train de manger un burger, des frites. Hey, checkez ça, le McFlurry, je me dégomme 3 McFlurry de même. Mais si tu crées un déficit calorique et que tu fais un repas par jour, tu vas être comme moi. Ça, là, c'est tellement de la bullshit, mais le monde se fait embarquer là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après ça, ils viennent nous voir parce qu'ils ont entendu dire que nous autres, on crée un beau mode de vie équilibré, qu'on aide les personnes à, on va dire, démystifier tout ça. Puis là, les personnes sont étonnées quand dans leur mode de vie, dans leur alimentation, ah, voyons donc, c'est ça, tu m'aides, là, t'as peu. J'ai le droit de manger du riz. Ah, t'as peu, tu me mets des glucides à chaque jour.
Hey, cette semaine, je parlais de ça avec Josiane hier, cette semaine, j'ai présenté une stratégie alimentaire à une cliente. Elle se met à pleurer. Là, okay. Je fais comme... Elle n'a jamais pleuré, même dans l'analyse, rien, là. Elle se met à pleurer. Je fais, hey, ça va-tu? T'sais, qu'est-ce qui se passe? Là, elle avait le guide d'aliments, elle checkait ça. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je peux manger du spaghetti. Là, j'étais comme, pourquoi tu ne pourrais pas manger du spaghetti? Elle dit, ben là, c'est marqué pâte. Elle dit, mais faut, je vais prendre du poids. Je dis, ben non, attends, puis reviens avec ce que je t'expliquais dans l'analyse. Ah ouais. Elle dit, ben non, je sais, tu me l'expliques. Elle dit, j'ai le droit de manger du spaghetti. J'étais comme, mais oui, tu peux manger du pâté chinois, puis de la pizza si tu veux, puis de la lasagne. Si ça fit dans tes portions, puis tu es capable de bien le gager, tu peux manger ce que tu veux. Là. Mm. Puis là, elle capotait, elle a pleuré, mais c'est la première fois que je voyais ça, puis elle est partie chez eux. Puis là, elle vient de partir avec sa stratégie, je la vois dans un mois. J'ai hâte de voir, mais j'ai révolutionné sa vie. Puis je suis sûr à 100%, en fait, 110%. Que ça suit ce que je lui ai mis, qu'il n'y ait rien de drastique,
elle va perdre tout
même si elle mange des pâtes, des fois, puis de la pizza, elle va perdre du poids.
Oui, c'est sûr. Parce qu'au final, on est dans le gros bon sens, on crée un déficit calorique, elle a une structure, qu'elle a du plaisir, qu'elle est capable de faire, puis qu'il y a du bon sens dedans. Mm. Moi, c'était un moment donné, une de mes clientes, la cliente a été keto pendant genre très, 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 très longtemps. Puis là, je lui ai introduit des glucides dans son alimentation parce que je lui ai dit, je veux que tu aies une... Elle me disait en plus qu'elle n'avait pas une belle relation avec l'alimentation. Je veux que tu travailles ta relation avec l'alimentation et je veux que tu sois capable de tout manger. Ce que la nature peut t'offrir, on s'entend, des aliments ultra transformés, il n'y en a pas, mais des bons aliments naturels. Fait que là, elle était peureuse d'introduire des glucides. Elle l'a fait. Après ça, sur la bioimpédance, je lui ai montré, gars, tu as pris 2 livres d'eau intracellulaire. C'est ça qui s'est passé avec les glucides parce que tu t'es revitalisé, tu as re-rempli tes réserves de glycogène qui est allé absorber un peu plus d'eau, mais tu n'as pas pris de gras là, parce que tu as fait ça. On le voit sur la bioimpédance au milligramme près. Mmh. Fait que là, elle a commencé à gagner confiance aux glucides, à manger des protéines, glucides et lipides très équilibrés. Puis là, un moment donné arrive, puis elle vit énormément de stress dans sa vie. Puis je pense que c'est une directrice ou une professeure d'école, peu importe quoi. Puis là, elle vivait énormément de stress pendant la rentrée. Puis là, j'arrive, j'ai un coaching call avec elle, j'y parle, puis là, j'y ai dit, t'as-tu des rages alimentaires associés avec le stress? Parce que les deux sont interreliés. Tu vis du stress, en général, plus de cortisol, tu vas avoir la glycémie plus basse par défense. Je lui ai dit, on va augmenter tes glucides, fait que dans ta structure alimentaire, voici qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, je suis allé lui introduire plus de glucides, mettre ça un bon 2 portions, déjeuner, souper. Puis là, elle capotait, t'es comme, mais voyons donc, c'est sûr, tu me niaises, je vais prendre du poids. Non, parce qu'il n'y a pas plus de calories à l'intérieur que ton lipide que je t'ai soustrait. Fait que tu sais, le monde a tellement une mauvaise relation dans l'alimentation overall, puis c'est ça un peu qu'on veut dire. Je pense que ça va être ça vraiment le sens de toute la rencontre d'aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui. Mais le jeûne intermittent n'est pas meilleur que le keto, qui n'est pas meilleur que le carnivore, qui n'est pas meilleur que tous les autres types alimentaires. Au final, la façon dont comment vous allez créer une restriction calorique, c'est ça qui va vous amener à perdre du poids. Chacun a des propriétés qui peuvent vous faire sentir bien. Le keto, c'est les corps cétogènes, la clarté au niveau du cerveau. Le jeûne peut vous apporter ça aussi. Le carnivore, ben probablement qu'au niveau digestion, tu n'as plus de flatulence, tu n'as plus de rien parce que tu n'as pas de légumes, de végétaux et de putréfaction dans le corps de cette façon-là. Ils ont tous des bienfaits et une façon de travailler différemment. Mm. J'ai bifurqué un peu, mais...
Non, mais c'est pas grave. Je pense que ça faisait partie de la game. Autre bienfait, gestion du poids, on en a parlé, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça peut clairement aider à créer un déficit calorique. En fait, ça crée un déficit calorique si jamais tu ne reprends pas toutes les calories dans ta fenêtre de temps. Exact. Mais encore une fois, attention, parce que si tu fais un jeûne dans l'objectif de manger un peu n'importe quoi, mais ça là, tu te tiens dans le pied. Mm. Fait que souvent, les gens le font mal. Okay? Fait que je ne m'éternise pas là-dessus, mais ça peut être une belle façon pour aider à gérer le poids puis à perdre du poids, en fait, mais c'est pas souvent la première solution. Focus mental et clarté cognitive. Tu as parlé un petit peu de cette hausse. Pendant le jeûne, le corps produit davantage de cétones, justement les corps cétoniques, une source d'énergie pour le cerveau améliorant ainsi la concentration. La production de cétones débute environ 12 à 24 heures après le jeûne, s'intensifie après 48 à 72 heures. Si jamais tu n'as pas de cétose, tu n'es pas en cétose encore, puis ce n'est pas des cétones au niveau du cerveau, c'est le glucose. Le cerveau, la seule source d'énergie qu'il est capable d'utiliser, c'est le glucose. Puis il y a deux sources d'énergie, en fait, soit le glucose, si jamais il n'y en a plus, ça va être les corps cétoniques ou les cétones. Mais chaque personne va réagir différemment selon qu'est-ce que lui est capable de prendre. La cétose profonde nécessite plusieurs jours de jeûne ou un régime strict très faible en glucides, mais ce n'est pas indispensable pour que le cerveau commence à utiliser les cétones comme carburant. Mmh. Manger des glucides pour alimenter le cerveau en glucose est une excellente stratégie dans un contexte d'alimentation normale ou d'effort intense, et j'aime le effort intense parce que si tu as une compétition X de sport aujourd'hui, va pas faire du keto, ben juste manger vraiment, vraiment faible en glucides pour être en cétose, parce que le glucose va être utilisé beaucoup plus facilement et rapidement au niveau du cerveau, au niveau des muscles aussi. Mm. Cependant, les cétones deviennent un carburant précieux lors de périodes de jeûne, comme on a dit, restriction calorique, ou pour les personnes avec des troubles métaboliques, comme on disait tantôt. Le choix dépend donc des besoins et des objectifs individuels. Donc, c'est toujours de regarder, est-ce que le jeûne, encore une fois, c'est le Saint Graal? Non. Mais est-ce que ça peut être utile dans certaines situations? Oui. La meilleure façon, moi, je vais te laisser continuer après ça, juste sur le quatrième point. Mais si tu aimes ça et tu files bien, et pour toi, c'est une belle façon et c'est facile de respecter, fais-le. Si tu détestes ça, tu files comme la scrap, à moins que tu le fasses mal, on s'entend. Mais fais-le pas, c'est pas obligé.
95% du temps, c'est mal fait. Les gens se sentent pas bien. Puis après ça, ils vont avoir des rages alimentaires. Puis by the way, le keto en tant que tel, tu sais, on va probablement faire un podcast sur le keto un bon moment donné parce qu'il y a tellement de demandes là-dessus. Mais le keto en tant que tel, comme tantôt tu parlais, les corps cétogènes, à la base, le keto, ce style alimentaire-là, il a été développé pour deux différentes propriétés. Le premier, c'était des chercheurs qui avaient fait des études sur des enfants qui avaient des crises d'épilepsie. Puis le deuxième, c'était pour justement le fait de empêcher les cellules cancéreuses lorsqu'il y a des vaisseaux sanguins autour qui vont alimenter la cellule avec des glucides de se nourrir. Fait que dans le fond, il y aurait des propriétés anti-cancer et il y aurait surtout, majoritairement, puis c'est là que les études poussent, des propriétés au niveau des crises d'épilepsie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le cerveau, au niveau des crises d'épilepsie, en général, lorsqu'il fonctionne avec du glucose, il est plus propice à ça que s'il fonctionne avec des corps cétogènes. J'ai déjà lu cette étude-là, c'était super intéressant. Ouais. Je le ressortirai un moment donné quand on va parler de la cétose, mais à la base première, c'est la raison du pourquoi c'est là. Les personnes qui ont des cancers, des gros désordres métaboliques ou vraiment hypertoxicité causée par plein de différentes affaires puis tout, ça peut être super pratique. En dehors de ça, ça a été popularisé pour la perte de poids. On n'embarquera pas trop dans le sujet. J'allais m'embarquer là-dedans. Ouais, là,
non, pas trop proche.
Le jeûne intermittent, il existe. Ben, en fait, j'en ai sorti 4. Mais il en existe à peu près 8 à 10 différents types de jeûnes qu'on peut faire. On peut en inventer des tonnes parce qu'il y a plein de façons de le faire, mais la grosse base première, les voici. Le jeûne 16-8, ça veut dire qu'on va avoir une fenêtre où on ne mange rien pendant 16 heures et on va consommer pendant 8 heures. Et là, je parle, un 16-8 habituellement, c'est que les gens, dès l'instant où ils ont terminé de manger, tantôt Sam t'avait cité le fait que si, exemple, tu manges à partir de, mettons, on va dire, à partir de 8 heures le soir, tu te manges un steak, ben techniquement, ton steak va être fini de digérer à partir de minuit. Fait que techniquement, par rapport à tes propos tantôt, le jeûne commencera à partir de minuit et là, tu flies sur un 16 heures. Mais moi, le 16-8, comment est-ce qu'il fonctionne?
Toi, c'est vraiment basé juste sur l'heure.
C'est exactement, ouais. Basé non, sur l'heure. Fait qu'on va fermer la fenêtre de consommation alimentaire de 16 heures total. Le but en tant que tel, c'est de manger pendant 8 heures. Très populaire parce que ça s'intègre extrêmement facilement dans une routine quotidienne. Il y a des propriétés et des bénéfices. Il va avoir une très légère activation de l'autophagie cellulaire. Mais on ne parle pas d'une activation extrême. Ce n'est pas là vraiment que tu vas faire le grand recyclage des cellules. Pendant les heures de jeûne, le corps commence le nettoyage des cellules modérées. Réduction de l'insuline. Principalement, comme dont on a parlé, tu diminues. En fait, ça va augmenter la sensibilité à l'insuline, réduisant les risques de diabète de type 2 et tout. Chez les personnes qui sont à risque, puis qui, exemple, se sont fait déceler un prédiabète. Je ne suis pas docteur, by the way, mais ceux-là qui se sont fait déceler un diabète, ça peut être très intéressant d'introduire des techniques comme ça, si la glycémie, bien sûr, nous le permet. Parce que si tu as une glycémie à 8 à jeun le matin, tu te pètes un jeûne parce que tu es habitué de prendre 2 liqueurs. Exactement. Si tu vas avoir un affaissement de la glycémie. Soutien digestif, donner une pause au système digestif peut réduire les ballonnements et l'inflammation au niveau de l'intestin. J'ai une de mes clientes, dans le fond, elle a été décelée maladie de Crohn, ça fait très, très, très longtemps. Cette personne-là, elle a l'intestin en tant que tel à 30% de tissu qui est. Elle a eu beaucoup de grosses crises, elle a eu des dyspepsies, toutes sortes de problématiques. Puis, elle était en gigantesque crise. Puis là, elle était suivie par son médecin. Le médecin ne savait pas trop quoi faire. Il a donné de la nouvelle médication et tout. Puis, moi, il y a une chose que je lui avais dit. Je la suivais au niveau de l'alimentation. Puis, elle avait déjà mis en application des jeûnes intermittents. Et pour réussir à couper l'inflammation systémique dans son intestin, le jeûne intermittent, elle avait décidé de le faire à ce moment-là. Puis, c'était super intéressant parce que, pendant qu'elle mangeait pas, le corps ne pouvait pas venir justement inflammer, créer des dyspepsies et tout. L'intestin était en crise. Fait que de retirer l'alimentation, ça l'aidait énormément à gérer ses symptômes, on va dire. Perte de poids, Ça encourage un déficit calorique. Fait que c'est idéal le jeûne 16-8 pour les débutants qui souhaitent avoir un beau mode de vie, très flexible, mais d'introduire certaines phases de jeûne pour juste purifier un peu plus le corps. On va le dire, je pense que ce serait plus dans ce cas-là, purification, créer un léger déficit calorique. C'est ce qu'on devrait s'attendre. Il existe un jeûne un peu plus avancé.
Parce que c'est un jeûne aussi qui est facile.
C'est facile à faire.
Tu sais, quelqu'un dit « Ah, je suis pas capable, man ». T'sais, en fait, combien de personnes font des jeûnes intermittents sans s'en rendre compte? La personne va souper le soir, mettons, exemple, à quelle heure tu soupes? Moi, je soupe à 6. Quelle heure tu déjeunes? Le matin, j'ai pas faim. Moi, je déjeune à 10. Voilà. C'est parce que 6 à 10, ça fait 16 heures. Tu sais, dans le fond, c'est... Mm. Fait que c'est quand même relativement simple à aller chercher. C'est quand tu tombes dans les autres, ça commence à être plus complexe.
Moi, quand j'ai utilisé, mettons, un 16-8, souvent, je conseille mes clients où j'arrête, moi, de manger à partir de 8 heures puis je flèche jusqu'à midi. C'est super facile. Ben
c'est le 16-8 classique.
C'est le 8 classique. À midi. Mais il peut se faire à l'inverse. Tu peux arrêter à midi.
Puis ah, flyer, ouais, exact. Mais l'affaire, c'est que, mettons, je sais, j'avais vu qu'il y avait plus de bienfaits, un petit peu, si tu faisais le jeûne en soirée, OK? Mais, ben, en fait, en même temps, c'est relié à quoi, je sais pas. Mais, mettons, moi, si je jeûne en soirée, je suis prêt à dormir. Je dors moins bien.
Ah ouais?
Parce que j'ai faim, puis on dirait ma digestion est là, ben, comme elle me dit, va manger, puis là, je suis dans le lit, puis j'ai deux yeux ouverts.
Si, admettons, tu essaies de te conditionner à ça, peut-être la première semaine, ça va être tough. Et un moment donné, peut-être que tu vas avoir encore un meilleur sommeil, parce que s'il n'y a pas de digestion active, ton corps va vraiment avoir toutes les hormones le plus actives possible, le nettoyage des cellules.
En même temps, je vais chercher des glucides pour m'aider à dormir.
Exact.
Fait
que tu sais, il pourrait avoir des bienfaits. Le deuxième, c'est le jeûne 24, qui est un peu plus avancé. Principalement, tu manges dans une fenêtre de 4 heures et tu ne manges pas, tu jeûnes pendant 20 heures. Très exigeant, nécessite une planification et une tolérance accrue au jeûne. Fait que souvent, on va recommander aux gens de commencer avec un 16-8 et ensuite, là, lorsqu'ils sont bien conditionnés, peuvent se diriger vers du 24. By the way, lorsque c'est les premières fois qu'une personne va faire un jeûne intermittent, moi je le demande tout le temps, mais en fait je le recommande tout le temps à tous mes clients, si tu as à faire un jeûne, fais-le avec une supervision professionnelle. Venez nous voir puis on va vous structurer un beau mode de vie. Parce que oui, les calories après ça, lorsque vous allez manger, la façon dont comment vous allez les manger vont être importants, mais il y a des personnes qui ont tellement un mode de vie déséquilibré, sans même le savoir. Je mange bien, mais tu prends 12 bières par fin de semaine, puis par semaine, tu prends 3 médications, tu fumes, tu prends pas soin de toi. Tu sais, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de modes de vie. Et ces personnes-là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que si, exemple, par eux-mêmes, en écoutant un podcast comme ça, ils essayent de faire le jeûne, puis là, ah, à partir de demain, à 8 heures, j'arrête de manger, puis je flèche jusqu'à midi. Rendu à 8 heures, 9 heures, 10 heures le matin, si tu es habitué de prendre ton café avec tes affaires, puis que là, tu as complètement l'absence de nourriture, ben, tu vas peut-être te ramasser en hypoglycémie. Tu vas peut-être avoir des faiblesses, tu vas peut-être avoir un mal de tête et tout.
Mais honnêtement, si tu écoutes le podcast puis tu t'es rendu où qu'on est live, puis tu
décides de faire
un. Non, mais sans être méchant envers qui que ce soit, là, mais je veux dire, ça serait cave un peu. Parce que, tu sais, il y a tellement. On a tellement dit depuis le début que c'est important de le faire de la bonne façon, qu'il y a des façons de le faire, tout le kit. Si tu écoutes ça puis tu fais n'importe quoi, ben là, à un moment donné, la balle est dans ton camp. Là. Fait que, tu sais, sois intelligent, écoute le podcast, sinon, on va voir un professionnel. Viens nous voir, ça va nous faire plaisir, on va t'introduire un beau mode de vie. Mais reste que c'est exactement le but du podcast d'expliquer que le jeûne, il faut le faire de la bonne façon.
Il faut le faire de la bonne façon parce que tu peux te créer plus de dommages.
Ben, c'est ça, exactement.
Puis moi, souvent, ce que je veux recommander pour tout le monde qui écoute ça, traîne-toi un fruit avec toi. Parce que si, exemple, à 10 heures, tu commences à avoir un mal de tête, tu commences à avoir des petites sueurs froides, tu commences à faire moindrement des symptômes d'hypoglycémie, mange un fruit. Ça va spiker ta glycémie. Tu vas sortir du jeûne, va t'en manger un beau repas équilibré, mais n'endure pas plus longtemps. Et là, après ça, l'autre semaine d'après, réexpérimente le jeûne, essaye de t'offrir plus loin, mais traîne toujours un fruit jusqu'au temps que ton corps se conditionne à 20 heures.
Ouais,
et
bon.
Si ça te fait ça, c'est signe que ton corps, il y avait des désordres, puis qu'il était. Tu sais, la glycémie est vraiment très
instable. Parce que réellement, là, si tu fais un jeûne 16-8, là, tu ne devrais pas, après 16 heures, claquer puis tomber en grosse hypoglycémie. Là. Si tu tombes là, à moi, vraiment, tu n'es vraiment pas habitué. OK, mais même là, j'ai pas jeûné depuis genre live un an, là, je pense que je n'ai pas fait de jeûne. Puis je te garantis, si demain tu me dis fais un jeûne, je fais un jeûne, puis je fais autant bien
c'est
en
sûr.
Ce moment. Là.
C'est sûr.
Parce que j'ai pas de problématique de tir. C'est pas normal. Là.
Fait que le jeûne en tant que tel, 24. Il va être beaucoup plus exigeant, beaucoup plus demandant. Fait que commencez pas avec ça. Autophagie, très accrue, voire là, on commence à avoir une vraie bonne production. Certaines personnes vont commencer à produire des corps cétoniques s'ils étaient déjà en déficit calorique et si ces personnes-là ont les réserves de glycogène qui se vident très rapidement. Exemple, tu fais un jeûne, t'es très, on va dire, athlétique. Toi, mettons, tu pars. Tu fais une belle séance d'entraînement. Après ça, tu décides de te faire un jeûne. Tu viens déjà de vider tes réserves de glycogène. Et là, tu pars pour un 20 heures. Ben, le corps va commencer à vider ses réserves très rapidement. rapidement et après ça, boum, il tombe dans les réserves de corps cétonique. Fait que tu tombes en cétose. Mmh. Fait qu'en l'espace de 24 heures, tu es capable de tomber en cétose quand une personne normale en général, qui ne fait pas de jeûne mais qui veut tomber en cétose, peut prendre 3 à 4 jours avant de tomber là-dedans. Mmh. Amélioration de la glycémie quand même assez drastique. Là, on a l'absence complète ou presque de, on va dire, de glucose dans le sang. C'est vraiment, vraiment plus faible. Fait que c'est sûr et certain que ça va avoir des gros rôles thérapeutiques. Déficit calorique important. En général, en 4 heures, à moins que vous soyez moins et que vous soyez capable de manger un univers au complet, ben vous allez vous ramasser à créer un gros déficit calorique. Fait que qu'est-ce qui peut se passer? C'est que le corps peut vous envoyer après ça des signaux de rage s'il est trop important le déficit. Augmentation de l'hormone de croissance pour préserver la masse musculaire et la régénération des tissus. Chez les personnes qui font arthrite, arthrose, fibromyalgie, douleurs chroniques, ça peut être quelque chose d'intéressant. Allez lire, prenez les informations par vous-même, mais prenez la peine d'aller lire parce que le jeûne peut démontrer énormément de bienfaits, surtout si ce sont des troubles qui sont associés à une surtoxicité. Et principalement, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je tiens à préciser, mais on le recommande seulement à des personnes expérimentées avec le jeûne le 24. Le troisième, j'ai à peu près 4 clients qui fonctionnent là-dessus, je te dirais, pas mal temps plein, puis c'est vraiment cool. C'est principalement des entrepreneurs qui voulaient vraiment une clarté. C'est des personnes qui sont super calmes. Le One Meal a Day. Un moment donné, j'avais fait un live sur le jeûne, puis je me suis fait vraiment poser beaucoup de questions. Ça a été un live qui avait beaucoup parlé. Puis le One Meal a Day, dans le fond, c'est très, très simple. Tu manges un seul repas par jour. Tu dois manger des quantités quand même phénoménales. Et le but du One Meal a Day, ce serait d'aller atteindre au minimum 50% de tes calories totales que tu devrais avoir par jour. Fait qu'en un repas, si la personne a un métabolisme de 2000, elle doit manger 1000 calories, mais pas plus. C'est 50%. Principalement, tu dois manger très riche en protéines, principalement riche en lipides et quand même considérablement faible en glucides. C'est ça le principe du One Meal a Day. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on spike la glycémie. Ils veulent vraiment essayer d'avoir la glycémie le plus faible possible. Vas-y, vas-y.
Ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, mettons, les personnes qui vont écouter ça vont dire, my God, 1000 calories, c'est, ça n'a pas de sens, tu sais. Mm. Mais 1000 calories, là, pour ben du monde, là, ils croient que c'est genre, ben c'est quand même gros, là, un repas de 1000 calories, on s'entend. Mais reste que ça se fait manger 1000 calories relativement facilement, là. Ouais. Parce que si tu tombes dans de la viande et dans des lipides, c'est très calorique, très. C'est 9 calories pour un gramme. Si tu pognes, genre, mettons, on va dire, tu te fais un brunch, un peu comme tu as dit, moi, j'adore faire ça quand je fais des jeûnes, je déjeune avec un brunch. Mm. Au niveau du, mettons, je déjeune dîne avec un brunch. Jambon, bacon, des noix, du fromage. Hey, avec un fruit, man, je pète 1000 calories facilement. Mm. Fait qu'aller chercher 1000 calories, pour vrai, il y en a gros qui pensent que c'est gros. C'est vrai que c'est gros, mais c'est quand même facile si tu tombes dans la viande ou dans des lipides.
Ah, absolument. Absolument. Principalement, le but, c'est d'essayer d'éviter les glucides le plus possible pour bénéficier le plus possible de l'autophagie qui va avoir un lien parce que les glucides vont aider beaucoup à l'activation du mTOR. Fait que principalement des lins.
Puis la leucine.
Puis la leucine.
Au niveau des
principalement
protéines.
Les protéines. Fait que tu sais, une seule prise alimentaire, généralement riche en protéines, en lipides et en légumes.
Mais c'est ça,
glucides.
En fait, le point, c'est que, la, mettons, si on prend riche en protéines, on va activer la mTOR aussi.
La mTOR quand même, mais
ouais,
moins que pire si que prend... si tu prends glucides et lipides.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Propriétés et bénéfices, là, tu maximises vraiment l'autophagie cellulaire. C'est extrême. Dans le fond, ils appellent ça, le One Meal a Day, ils appellent ça le purificateur du corps. Fait qu'en l'espace de 24 heures, littéralement, tu manges en l'espace de 15 minutes et après ça, tu pars pendant 23 heures et 45 minutes en jeûne, principalement. Si tu fais ça, puis le One Meal a Day, by the way, c'est quelque chose que les gens vont pratiquer 7 jours semaine. Ça veut dire que ça devient
que
une éthique
ouais.
de vie. Fait que ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont perdre beaucoup, beaucoup de poids, voire atteindre leur poids santé. Après ça, il va falloir qu'il y ait des stratégies plus spécifiques. Mais la clarté mentale, les corps cétogènes, l'autophagie, c'est extraordinairement bénéfique pour beaucoup, beaucoup de bienfaits comme le cancer, toutes ces choses-là. Mais tu sais, je ne suis pas docteur, fait qu'aller lire quand même là-dessus, je tiens à préciser. Le One Meal a Day en tant que tel.
Hey, by the way, là, pour le cancer, là, j'avais lu là-dessus, puis tu sais, c'est... Le jeûne a des études, beaucoup sur des rongeurs, là. Encore ouais. une fois, c'est des rats. Là. Mais comme, tu sais, quand on parle de cancer, là, c'est comme, ah, ok, non, ah, ouais. oui, ah, non. Fait que tu sais, c'est.
On en reparlera.
C'est encore
de ça.
Bien touché.
On va avoir un moment donné, un qui va falloir vraiment décortiquer ça parce que tu sais à quel point j'ai été maniaque un moment donné, ça, à lire ça avec l'histoire de ma sœur et tout. Fait que j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes d'affaires à compter sur le cancer. Puis le jeûne intermittent, il y a vraiment des belles propriétés. Puis c'est dans le fond, le keto. Le jeûne va avoir énormément de propriétés parce que le problème, c'est que la molécule en tant que telle, la cellule cancéreuse, le code d'ADN défectueux, je ne veux pas trop embarquer dans le sujet, mais principalement, il s'est prouvé que si tu inhibes les glucides en totalité et que tu tombes encore cétogène, le cancer ne peut pas se nourrir de la même façon. Fait qu'après ça, l'autophagie cellulaire qui est le nettoyage, puis tu vas pouvoir activer certaines voie de retranscription cellulaire, tu vas être capable d'aller nettoyer avec des antioxydants spécifiques le code d'ADN, mais je ne veux pas embarquer trop là-dedans, on en reparlera un moment donné. Ça va être très technique, mais très, très vraiment intéressant. One Meal a Day, Maximisation de l'autophagie cellulaire. Le long jeûne entre les repas pousse le corps à recycler les cellules endommagées et à réduire drastiquement l'inflammation. Stabilité glycémique. Là, on a vraiment un contrôle très strict de la glycémie. Et, by the way, il y a, je pense, c'est le docteur Fung aux États-Unis, ou en tout cas un docteur qu'on lit régulièrement, qui a une clinique de renversement, on va dire, de diabète. Et lui, il utilise le jeûne et le keto pour réussir à renverser ça. À force d'être dans un environnement tellement stable au niveau de la glycémie, à force de nettoyer tes cellules et à force de toujours avoir une glycémie extrêmement, on va dire, stabilisée, sous supervision médicale et tout, ben on est capable, tranquillement, pas vite, de redonner, probablement qu'il y a de la médication à travers tout ça aussi, pour restimuler, ou ben des peptides, des choses de même, pour restimuler en tant que tel le pancréas à reproduire l'insuline et tout. Détoxification digestive, donne un repos prolongé au système digestif permettant vraiment une bonne absorption des nutriments. Fait que le 1000 calories que tu consommes, tu vas l'absorber. Parce que ton corps, il en a de besoin, puis sinon, le reste de la journée, il n'y a pas de nutriments. Fait que gain en discipline, renforce la conscience alimentaire et réduit les envies de grignotage. C'est prouvé que les personnes qui se conditionnent à avoir du jeûne one meal a day ou juste un jeûne 24, c'est des personnes qui, après ça, quand ils reviennent dans un mode de vie un peu plus équilibré, puis s'ils sont vraiment conditionnés à ça, là, disciplinés à le faire, ils vont développer la discipline alimentaire, d'être capable de refuser, tu sais, ils vont être capables de gagner leur petit combat quand ils vont avoir des rages alimentaires. Fait qu'ils vont être plus conscients au niveau de leur alimentation. Important, très important pendant le jeûne one meal a day, les aliments que vous consommez devraient être très denses en calories, fait que des noix principalement, des viandes rouges un peu plus, des choses de même. Et le dernier, c'est le jeûne puriste, très spécifique, puis c'est lui vraiment qui va aller travailler quand on a, mettons, des personnes qui ont des gros troubles pathologiques, fibromyalgie, cancer, etc. Le jeûne puriste en tant que tel, c'est un jeûne de 24, 48 ou 72 heures. On peut même le pousser jusqu'à une semaine. Il y a des peuples qui vont le faire pendant une semaine sans aucune nourriture. Et le jeûne puriste en tant que tel, c'est quoi? C'est seulement de consommer de l'eau, du sel iodé pour une activation optimale de l'autophagie et de maintenir le métabolisme élevé avec la glande thyroïde. Très simple. Consommation uniquement d'eau et de sel, environ un tiers de cuillère à thé dans un verre d'eau à toutes les deux heures, ce qui veut dire qu'il recommande entre 4 et 6 litres d'eau pendant cette journée-là, parce que c'est le seul affaire qui rentre, mais à chaque fois que tu bois de l'eau, il faut toujours qu'il y ait du sel iodé à l'intérieur. Peut durer très longtemps, comme j'ai dit, ça peut durer jusqu'à une semaine. Les propriétés, les bénéfices, activation maximale de l'autophagie, le manque complet de nutriments force le corps à se concentrer sur le recyclage des cellules. Amélioration drastique de la sensibilité insulinique, la réduction de l'insuline à des niveaux optimaux favorisant la mobilisation des graisses. Fait que là, on va être en perte de poids drastique, c'est inévitable parce que t'es une semaine sans manger. C'est sûr que tu vas aller perdre au... Si, admettons, t'as besoin de 2500 calories par jour... Fais ça x7. Principalement, tu auras perdu un bon 5 livres de graisse flanc, là, direct. Nettoyage digestif. Une pause totale permet au système digestif de se régénérer et de réduire l'inflammation. By the way, je t'allais lire là-dessus. Chez les personnes qui ont des dyspepsies, des poches ou bien tout simplement de l'irritation des ulcères à l'intestin, de faire des jeûnes spécifiques comme ça. Puis by the way, c'est pas une recommandation, je le répète tout le temps. Mais de faire des jeûnes comme ça peut avoir des effets thérapeutiques extrêmement bénéfiques parce que le corps qui a aucune activation, on va dire, du péristaltisme, aucune activation au niveau digestif, et enzymatique, va vraiment avoir la capacité de pouvoir aller réparer les parois des microvillosités intestinales. Réduction de l'inflammation peut vraiment diminuer les marqueurs inflammatoires systémiques et c'est principalement ça les différents types de jeûnes. Fait que quand une personne fait un jeûne de, mettons, on va dire, 3 jours, 4 jours, 5 jours, on a déjà vu, nous autres, on en connaît une femme qui fait ça. Une semaine, je pense qu'elle avait déjà fait.
T'en rappelles-tu d'Abdel?
Oui.
C'était incroyable. Mois, là, avant rien, genre
lui, c'était très long, mais lui, c'était musulman. Fait que lui, c'était musulman. Mais c'était incroyable parce qu'il avait fait ça pendant des semaines et des semaines. Puis, tu sais, il avait perdu l'équivalent de peut-être 20-30 livres parce que le corps va puiser dans ses réserves. Mais c'était capotant parce que je me souviens, il avait réintroduit après ça. Il fallait qu'il introduise les aliments tellement tranquillement parce que le système digestif était désactivé qu'il avait introduit de la papaye qui est un des aliments avec le plus d'enzymes digestives naturelles dessus. Après ça, il a introduit papaye et ananas. Après ça, il a commencé à introduire une viande mais sans aucune épice ni rien. C'était un poulet genre bouilli. Après ça, il a commencé à introduire une autre molécule. Ça a demandé une réhabilitation au système digestif pour réussir à réintroduire ça parce que s'il rentrait du jour au lendemain un gros Big Mac, steak, tout le kit, il allait probablement faire le même effet qu'un bodybuilder quand il sort d'une compétition puis qu'il a été trop restreint. Prendre 20-30 livres de marqueurs inflammatoires, de rétention d'eau et de gras. Fait que ça serait scrappé complètement. Fait que tu sais, c'est ce qui démontre en tant que tel. En fait, c'est les quatre différents types de jeûne. Fait que c'est pas mal ça.
Vas-y, ça, je te laisse. On coupera un peu, c'est pas grave, mais dans le fond, c'est-tu elle qui a coupé, Charles? Ouais. Il en reste encore en masse.
Ouais, on continue.
Ok, continue. Alright, donc on passe au prochain point, les 5 erreurs courantes. Excuse-moi, pas les 5 erreurs, on était dans l'une. On vient de caméra qui vient de lâcher, fait qu'on était tout mêlé.
On coupe à partir d'ici, prends un petit break.
Ouais, on repasse.
Vas-y.
Cinquième point, les 5 erreurs courantes à éviter pour le jeûne intermittent. 1. Consommer des glucides ou des protéines. Ça revient un peu à ce qu'on disait, là, parce que si tu consommes des glucides ou des protéines, tu actives le mTOR, puis tu désactives l'autophagie, puis tous les principes de ça. Là. Fait que ça l'interrompt le jeûne. Par exemple, ajouter du lait ou du sucre à un café peut sembler insignifiant, mais cela fournit des calories, désactive le jeûne quand même. Ouais. Comment éviter ça? Ben, consommer uniquement de l'eau, du thé ou du café noir. Pas jus de citron, mais de l'eau avec citronné ou de la lime aussi, très très intéressant pour ceux qui n'aiment pas juste boire de l'eau fade. Là.
Le Dr. Fong a amené, parce que c'est un des grands spécialistes au niveau du jeûne puis du keto lui principalement, puis il avait spécifié que dans le café, tu peux utiliser de l'huile de coco, la MCT oil, fait que medium chain triglycéride, puis ça peut énormément faciliter la libération des corps cétogènes quand tu fais des jeûnes plus prolongés. Fait que c'est super intéressant pour ça. Fait que ça ne brise pas le jeûne, la MCT à l'intérieur parce qu'il y a pratiquement aucun, je pense qu'il y a 0 g de glucides. Puis la chaîne de triglycérides qui est spécifique à ça a plein de propriétés au niveau thérapeutique, au niveau cognitif. Super intéressant pour ça.
Intéressant. Lire les étiquettes nutritionnelles, ça je pense c'est la chose la plus importante parce que si tu fais un jeûne, tu lis rien puis tu consommes plein d'affaires. Il y a des grosses chances que tu aies des calories dans des aliments que tu crois qu'il n'y en a pas mais finalement qu'il y en a. Deuxième erreur à éviter, ne pas assez s'hydrater. Une hydratation insuffisante peut causer des maux de tête, des étourdissements ou des crampes musculaires. Combien de fois j'ai vu des personnes qui viennent nous voir, qui disent « j'ai fait un jeûne, j'ai pas aimé ça parce que j'ai eu mal à la tête » ou « j'ai manqué d'énergie » ou « j'ai eu des crampes ». Fait que manque d'hydratation. Comment éviter ça?
Elle a pris 3 cafés, cette personne-là.
Ça l'aide pas, effectivement, ça déshydrate. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Et l'autre point très intéressant, on avait fait un podcast récemment sur le sodium. On avait parlé aussi de différents électrolytes. Mais ajouter des électrolytes comme sodium, potassium, magnésium peut aider à maintenir ce qu'on appelle l'équilibre hydrique, tout ce qui est minéraux. Une pincée de sel, tout simplement, aussi dans ton eau, avec un petit peu de jus du citron ou ben de la lime. Ça peut être une belle façon de bien hydrater et non juste de boire de l'eau qui, pour plusieurs personnes, trouve ça fade. Troisième erreur, et pas mal la dernière là-dessus, mais vouloir aller trop vite. Tantôt, on a parlé rapidement, mais allez-y graduellement. Si t'es pas habitué de faire un jeûne, tu décides d'aller faire un jeûne de 36 heures en partant, ça se peut que tu trouves ça raide. Pas juste au niveau mental, mais au niveau de tout ce que ton système digestif va t'envoyer comme signaux, les maux de tête, différentes affaires. Et il y en a gros qui, au même niveau mental, justement, sont pas capables de passer au travail de ça parce que des fois, ça peut être un manque de discipline ou manque de motivation, tout simplement. Fait que commencer par des jeûnes qui sont plus courts, peut-être de 12 à 14 heures au début. Puis oubliez ce que j'ai dit tantôt dans le sens que, en fait, c'est réel, là, ce que j'ai dit par rapport au fait que si tu fais 16-8, mais que tu manges, ça va être plus un 24 qui va faire un vrai 16-8 à cause de la digestion. Mais quand j'ai oublié ça, c'est juste pour commencer, allez-y qu'un 12 à 14 heures, après ça 16 heures, après ça 18 heures, montez-les graduellement. Puis à un moment donné, vous allez voir que le 20 heures va devenir facile. Puis l'autre affaire qu'il faut savoir, c'est que les hormones gréline, principalement et leptine, mais la gréline dans cette situation-là qui te permet de, qui te donne faim, là, est régulée. Fait que si tu jeûnes, genre, mettons, moi, live, comme je t'ai dit, ça fait un an, j'ai pas jeûné. Si demain matin, je fais un jeûne, je te garantis m'être capable de faire 24 heures parce que j'ai une belle discipline, mais il y a des fortes chances que j'aille très faim à certains moments. Ça va passer, ça va revenir, ça va passer, ça va revenir, puis graduellement, ça va disparaître. Puis si je fais un jeûne à tous les jours, ben à un moment donné, j'aurai même plus faim. Même si je mange rien. Fait que c'est pas parce que t'as faim qu'il faut absolument que tu manges. Le corps est fait comme ça, il t'envoie des signaux qui s'inhibent par la suite. Fait que tu peux passer au travers de ça. C'est soit la discipline ou soit le fait d'y aller graduellement et de pas aller trop vite comme je mentionnais juste ici. Donc, passer directement à des jeûnes longs, donc 20 heures et plus, peut provoquer fatigue, maux de tête, hypoglycémie, tantôt on le disait, donc c'est pas fou de jouer ton truc de tenir, ben pas tenir là, mais oui tu peux t'entraîner le tenir dans tes mains. Tu le tiens. Amène un fruit. Puis moi, j'aime bien les fruits séchés dans ces moments-là parce que c'est facile à transporter vraiment, vraiment partout. Là. Puis ça pose pas date. Tu es dans un petit pot. Tu peux le mettre dans une case autour de ton travail, dans ta boîte à lunch, dans ton bureau de travail. Donc, c'est ça. Surtout si le corps n'est pas encore adapté à utiliser les graisses comme carburant. Donc, laissez-vous le temps. Cela peut décourager et rendre le jeûne difficile à maintenir à long terme. Beaucoup de personnes, justement, vont faire le jeûne une fois, vont essayer de faire un 20-24 heures en partant, vont trouver ça vraiment, vraiment difficile. Puis ils vont dire, ben fuck off, c'est pas fait pour moi, c'est trop difficile. C'est des malades ceux qui font ça, je ferai jamais ça. L'affaire, c'est que c'est pas que c'est si difficile que ça, c'est que la première fois, c'est difficile. C'est comme n'importe quoi. Si t'en vas au gym, t'es raqué pendant 2 semaines la première fois que tu vas au gym, à un moment donné, t'es plus raqué. Pourquoi? Pas parce que tu t'es entraîné moins fort, parce que ton corps s'adapte. Même affaire avec le jeûne, vas-y graduellement. Comment éviter? Commencer par des jeûnes plus courts, bon, je l'ai mentionné en fait, puis adapter les activités physiques et éviter les entraînements qui sont trop intenses. Très intéressant à savoir ça, mais si tu fais un jeûne, va pas, surtout si c'est la première fois que tu fais un jeûne, va pas te péter un gros training juste avant, parce que après tu vas tomber en hypoglycémie, c'est quasi certain. Si t'es habitué de toujours manger puis ta glycémie est très très basse après un entraînement parce que t'as absolument rien mangé, puis t'as vidé tes réserves de glycogène au maximum, ça serait un peu ridicule de faire un jeûne. De toute façon, tu vas le faire puis tu seras pas capable parce qu'il va falloir que tu manges du sucre. Fait que time ton jeûne à des moments qui sont intelligents. Moi, mettons, quand je faisais mes jeûnes, souvent c'était les dimanches.
Ouais, une fin de semaine de repos.
Ben, tu sais, des fois, le dimanche, j'avais rien à faire, puis je me réveille le matin, je fais mes affaires. Puis, honnêtement, c'est le fun à faire des fois parce que t'as pas besoin de penser à rien. T'as plus de temps parce que, hey, calcule ça, là, si tu manges, mettons, nous autres, qu'on mange 6 repas, là, 3 repas, 3 collations, là. Ben, mettons que tu mets une demi-heure par repas là, ou par collation, c'est 3 heures dans ta journée. Ben, tu sauves 3 heures sans la préparation, je parle juste de pour le manger des fois, là, sans la digestion après ça que tu vas avoir. Fait que tu sais, c'est pas l'affaire à faire que tout le monde devrait faire, mais ça peut être utile et timer votre jeûne par rapport à votre mode de vie tout simplement. Si tu sais que le dimanche c'est très relax, t'as rien de spécial à faire, t'es pas stressé, t'es chez vous, bon ben gars, vas-y, fais un jeûne. Puis il y en a d'autres que, mettons, moi j'aimais ça parce que j'étais chez nous, j'avais rien à faire, puis tu sais, c'était facile. Puis il y a d'autres personnes, puis c'est intéressant parce que c'est la perception, puis c'est bien correct qu'il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses. Mais il y a des personnes que eux aiment faire le jeûne lorsqu'ils font quelque chose. Parce que comme ça, ils l'oublient. Fait que tu sais, exemple, ils disent, ben non, moi je vais le faire au travail. Comme ça, je suis au travail, tu sais, je pense pas à ça. Je travaille, puis c'est facile, j'arrive chez nous le soir, le jeûne est fait. Moi, personnellement, si je travaille ou bien j'ai quelque chose à faire, j'aime ça avoir mangé parce que je veux de l'énergie, je veux pas avoir à penser à ça. Fait que c'est relatif d'une personne à l'autre. Mais timer le jeûne intelligemment par rapport à votre mode de vie. Puis principalement, assurez-vous de ne pas faire un jeûne dans un moment qui est un stress très élevé ou après une grosse, grosse séance d'entraînement parce que vous allez tomber en phase d'hypoglycémie dans des majeures parties des cas. Fait que, Jay, tu veux terminer avec des témoignages?
Oui. Ben, en fait, un témoignage, une histoire en tant que telle. L'histoire d'Angus Barbieri, une perte de poids extrême avec un jeûne puriste de 382 jours total. Tantôt, je l'ai précisé, le jeûne puriste, c'est seulement de l'eau et du sel iodé avec des nutriments. Fait qu'il n'y a rien d'autre, pas de nourriture. 382 jours. Je vais le lire parce que l'histoire est vraiment incroyable, mais une perte de poids extrême avec un jeûne puriste de 382 jours. Angus Barbieri était un jeune homme écossais de 27 ans souffrant d'obésité trimorbide. Avant de débuter son incroyable parcours, il pesait 455,4 livres, donc 206 kilos. En raison de son état de santé qui était très préoccupant, il a consulté des médecins de l'hôpital Maryfield à Dundee, en Écosse, qui ont recommandé une intervention drastique pour sauver sa vie. À l'époque, en 1965, le jeûne était exploré comme une option thérapeutique sous supervision médicale pour traiter l'obésité sévère. C'était probablement avant les chirurgies bariatriques de ce monde et les anneaux gastriques. Au début, c'était anneaux gastriques. Avant, c'était le jeûne. Après ça, anneaux gastriques. Après ça, chirurgie gastrique. Le processus jeûne puriste sous supervision médicale. La durée, il a suivi un jeûne de 382 jours consécutifs, plus d'une année complète sans consommer aucun aliment solide. Malade.
C'est un record du monde, ben oui. Hein? C'est le record du
monde. C'est le record du monde, puis ça l'a extraordinairement fait développer la science du jeûne. Le régime, Angus consommait seul uniquement de l'eau et des suppléments d'électrolytes, y compris du potassium, du magnésium et du sodium sel iodé. Il prenait aussi des compléments vitaminiques, notamment des vitamines B et C, et pour éviter les carences graves. Surveillance médicale, ses niveaux de glycémie, ses électrolytes et sa santé globale étaient surveillés très régulièrement. Les médecins ont été surpris de constater qu'il pouvait maintenir des fonctions métaboliques très stables, même après de longues durées de période sans manger. C'était la première grande recherche, quand même drôle. T'as des tonnes de médecins, hey, on va y faire un jeûne de 300 jours, là, du coup, on le fait, je suis sûr qu'il va survivre.
Là, d'après moi, c'est qu'ils ne savaient pas que ça allait aller là, puis quand ils faisaient des analyses avec lui, puis exactement, ils demandaient, puis ils voulaient continuer, fait qu'ils ont continué.
Les résultats incroyables en perte de poids. Angus Barbieri a perdu 275,4 livres en l'espace de, je l'ai ici, c'était combien de jours? C'était 382 jours. Fait que 275,4 livres en 382 jours, atteignant un poids final de 180 livres qui était son poids santé à la fin de son jeûne. Cela équivaut à une dépense énergétique d'environ 964 000 calories sous forme de réserve de graisse, selon les estimations scientifiques basées sur ses besoins métaboliques. Et ce qui est intéressant avec ça, parce que tantôt on parlait justement de l'hormone de croissance, de l'autophagie et toutes les kits, malgré la durée extrême du jeûne, Barbieri n'a perdu que 11 livres de masse musculaire sur un poids total de 275 perdus, démontrant l'efficacité du corps humain à utiliser les graisses comme source principale d'énergie. Par contre, il a récupéré la totalité de la masse musculaire quelques mois après avoir repris une alimentation optimale, mais tous les marqueurs inflammatoires, l'hypertension artérielle qu'il faisait et le prédiabète, voire diabète qu'il avait, a tout été complètement éliminé. C'est ça qui est impressionnant. Fait que tous les marqueurs...
Il dit-tu combien qu'il pesait au début?
Oui, je l'ai ici. C'est 455,4 livres et à la fin, il pesait 180 livres. Une perte de 275 livres. Prédiabétique, hypertension artérielle solide, cholestérol, la totalité. Là, c'était ça où il mourait. Puis il l'a fait. C'est impressionnant. Mais le corps, par autophagie cellulaire, parce qu'il n'y avait pas de nourriture, parce que l'homme avait 300 livres de graisse autour de lui, il avait la capacité d'être capable de pouvoir survivre avec aucune nourriture. Parce que si lui, puis je tiens à préciser le principe, si lui, son métabolisme de base, absolument inactif, là, probablement qu'il n'allait pas courir des marathons montés de montagne, là, il était probablement évaché chez eux sur un divan en train d'écouter la TV. Sauf que si son corps, à chaque jour, métabolisme basal, il utilisait 1600 calories ou 1800 calories à cause de sa masse musculaire, ben son corps, fois 300, soit 382 jours, fois son 1800 calories ou 1600 calories, ça l'a créé un déficit total de 964 000 calories. C'est ça qui est allé
combler. C'est le basal. C'est plus que ça. Là.
C'est fou.
Là, t'as compté le basal.
Ouais. Mais il n'y a pas de total. Il n'y a presque pas de total. Ben, le gars, c'est sûr qu'il était vaché devant son divan.
C'est sûr. Ouais. Ouais. Puis en plus, il n'y avait pas de digestion.
Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a rien.
Ouais, j'avoue qu'il ne devait pas être longtemps.
Il devait avoir les jambes raquées, lui, à la fin de son affaire. Il s'est levé 382 jours plus tard. OK, c'est fini.
Hey, mais quand tu y penses, là. Tu sais, le podcast qu'on a fait, le podcast 2, justement, de la saison 2, qui était sur les adaptations métaboliques, qu'est-ce que le corps fait, puis tu sais, on avait donné des exemples de Kipa et Gang, cette affaire-là, que leur métabolisme, même, je pense, c'était 2 ou 3, ah non, c'était 6 ans après qu'il avait diminué, genre, de quoi, comme 50%, leur métabolisme basal. Mais tu sais, lui, mettons, ça serait intéressant, on ne saura pas, là, probablement, mais ça aurait été intéressant de savoir son métabolisme basal réel était rendu à quoi après ça. Parce qu'il devait être... Hey, fait que là, lui, probablement que quand il recommençait à manger, il fallait, outre le fait que la digestion était prête à en prendre trop, il fallait qu'il aille très graduellement pour ça. Mais j'imagine qu'il devait y aller très graduellement aussi pour réactiver son métabolisme, parce qu'il devait tellement être rendu faible, fallait qu'il remange graduellement pour ne pas reprendre trop de poids.
Ben, principalement, la dernière phrase, il a récupéré cette masse musculaire en quelques mois après avoir repris une alimentation optimale. Fait que,
on met pas juste la masse musculaire.
En quelques mois, ben, c'est de la revitalisation principalement. Puis quand on parle de revitalisation, c'est masse musculaire, l'eau intracellulaire, le métabolisme et tout ce qui augmente.
Ce que je veux dire, c'est que s'il avait mangé trop de calories, il aurait repris du gras rapidement.
Ouais, parce que le métabolisme
est à faire. Quand ils disent alimentation optimale, c'est sûrement alimentation optimale dans sa situation. Ça devait être vraiment, vraiment minime, très ben, graduellement.
Comme Abdel, un moment donné, c'était justement...
Comme tu disais.
T'introduis une papaye, après ça, tu vas introduire une mangue, après ça,
lui,
tu vas introduire...
Lui, c'était 3 semaines. Ouais. Lui, c'était un an, quasiment, trois semaines.
Fait que tu sais, c'est intéressant. Puis s'il l'a mal fait, ben Angus, à ce jour, repèse 400 livres parce qu'il a refait un effet yo-yo.
Il est rendu Angus aujourd'hui.
Je sais pas.
J'aimerais voir ça.
Dans les années 60... Finalement, non, mais on se pousse ça. Fait que, tu sais, c'était super intéressant comme on va dire, recherche-étude. Ça a vraiment fait avancer les recherches au niveau du jeûne intermittent. Puis, tu sais, ici, on peut voir qu'il y a, on va dire, totalement réglé ces problématiques de santé qui étaient causées par le surpoids en faisant des jeûnes. Mais tout le recyclage cellulaire, j'aurais aimé voir l'état de ses cellules et de son... on va dire, de ces branches de code d'ADN à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de désordre, on va dire, immunitaire et tout le kit, ou est-ce que l'homme était vraiment devenu en super de bonne santé métabolique et génétique et tout? C'est ça qui est intéressant, on ne peut pas le savoir. Fait que je pense que c'est pas mal ce qui conclut. Hein?
Ouais.
Bon, fait que c'est ce qui termine notre saison 2. On a vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire. On va revenir pour la saison 3, on l'annonce officiellement. La saison 3, ça va être une suite de tous les sujets. On essaie de vraiment avoir des sujets spécifiques qui suivent tout le temps. Fait que, comme exemple, on va parler du sel, après ça, on va parler d'hydratation, après ça, on essaie de toujours parler de sujets qui suivent. Fait que si jamais vous avez aimé la saison et le podcast, s'il vous plaît, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify, sur Balados, sur YouTube, partout. C'est tellement important. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour qu'à chaque fois qu'on ait un podcast, on puisse rentrer en contact avec vous et vous envoyer des nouvelles. Allez communiquer avec nous directement sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook Phoenix Expert en gestion de poids durable. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de reprogrammer votre mode de vie, avoir une bonne alimentation équilibrée, perdre du poids, travailler vraiment vos points pathologiques et toutes les kits, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous aider face à ça, moi et Samuel. On fait des services en ligne et on fait des services aussi en clinique à Trois-Rivières, mais majoritairement, si vous êtes à distance, on va le faire en ligne. Merci énormément d'avoir été présent.
Je l'ai ça.
Tu l'as le poids? Ouais.
Ben, en fait, Angus Barbieri est décédé en septembre 1990 à l'âge de 51 ans après une courte maladie.
OK.
Il fallait j'aille voir plus loin, mais là, c'est là qu'il dit qu'il y a
en, fait le en plus quelle année?
1990.
90, c'est 35 ans plus tard. Fait qu'il a quand même vécu.
Il a fait ça en 1965. 55?
65. 25 ans plus tard.
OK, c'est ça. Il a fait ça en 1965. Ça a pris un an, ça veut dire qu'en 1960, fait qu'il a vécu comme un 24 ans de plus. Mm. Probablement qu'il aurait vécu 2 ans de plus s'il continuait.
Non, peut-être même pas.
Intéressant, mais ouais. C'est ça.
Merci énormément d'avoir été présent, gang. Puis on se voit dans la prochaine saison. Ça devrait venir d'ici environ le temps des fêtes, après le temps des fêtes.
On va voir.
Bye-bye.
Bye.